Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau podcast numéro 12. On va parler donc de X-Men Children of the Atom. Donc moi, je suis FQPEH, je remplace Nathan. Nathan, bonjour.
Bonjour, comment ça va bien?
Ça va très bien.
Ça va, pas trop de stress?
Non, pas du tout.
Pas du tout, ok, bah c'est super.
Ça s'entend pas d'ailleurs,
ouais.
Je suis sûr.
Non, pas du tout, puis je vais arrêter de prendre une voix de Californien en mode « Ouais, tout
d'accord.
Est trop bien !»
Merci. Voilà. Donc à côté de toi, on a Will Cook.
Bonjour, comment vas-tu?
Bonjour, ça va.
Tu es heureuse d'être là?
Oui, je suis heureuse d'être avec vous.
Tu es heureuse de prendre la place du chef?
Oui, très. Donc on a aussi TMDJC qui est là avec nous.
Bonjour tout le monde.
Bonjour à toi. Et puis on a aussi Sly qui est là avec nous pour le son. On va revenir 20 ans en arrière pour Children of the Atom, donc en 1994.
Putain, 20 ans.
Tout à fait,
ouais.
Déjà.
TMDJC, si tu peux nous faire justement un petit peu le contexte de l'époque par
et
rapport
ben,
à
ma
ça.
Ma foi, avec grand plaisir. 1994, c'est une énorme année pour SNK, entre autres, parce que SNK nous a déjà sorti Art of Fighting 2, ils nous ont sorti World Hero 2 Jet, ils nous ont sorti Aggressor de Dark Combat, ils nous ont sorti Samurai Shodown 2.
Tu venais de dire grande année.
Grande année.
C'est et tu viens de passer Aggressor of Dark Combat.
C'était important de le mettre quand même pour plein de raisons.
ADK, pour la petite histoire.
Et puis quand même, ils nous ont sorti en août, puisque nous sommes en 94, ils nous ont sorti King of Fighters 94. Mais Capcom n'était pas en reste, parce que Capcom nous a sorti cette même année en 94 Super Street Fighter 2X, qui est toujours le Street Fighter 2 le plus joué aujourd'hui.
Tu peux même dire le meilleur jeu de baston de l'histoire des jeux de baston.
Pour Will Cook, le meilleur jeu de baston. Et il nous a sorti également Vampire, qui est un excellent jeu, mais qui a eu énormément de mal à dépasser les frontières japonaises.
Pourquoi cela ?
Ben là, il faudra écouter le podcast sur Vampire.
Effectivement, le numéro 11 donc.
Mais en fait, moi, il y avait une question toute bête probablement pour la suite, mais on parle de X-Men, en fait. Pourquoi ça s'appelle X-Men Children of the Atom ? C'est genre, ils ont volé une licence. Il se passe quoi, en fait, dans cette histoire ?
Alors, X-Men, c'est une licence qui est très connue, qui n'ont pas volé parce qu'ils ont payé quand même leur licence, c'est pas des voleurs Capcom. Donc en fait, pourquoi X-Men Children of the Atom? Bah, Children of the Atom, déjà, il faut savoir que c'est un des petits noms qu'on donne beaucoup aux mutants dans l'univers Marvel, parce qu'à cette époque-là, dans les années 94, on associait beaucoup la mutation à la radioactivité, d'où ce petite association Children, les enfants de l'atom, et aussi pour le différencier d'autres jeux qui sont sortis avant, et notamment spécifiquement dans le cas de X-Men, qui dans le cas qui nous intéresse, sorti en 1994, en 1992, au moment de l'heure de gloire de Jim Lee, Konami aussi avait sorti un jeu X-Men. Donc Konami avait sorti un Beat'em All très connu, qui est en fait sur la base des nombreux Beat'em All qu'on connaît de Konami, notamment il y a donc le plus célèbre, les Tortues Ninja, qui est un Beat'em All assez mortel. Il y a aussi très connu les Simpsons. Beaucoup de gens trouvent qu'il a mal vieilli, mais moi je l'aime bien, les Simpsons. Et il y en a d'autres un peu moins connus, comme Astérix et Obélix, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est un de ces nombreux Beat'em All à licence qu'a fait Konami, qui s'appelait X-Men tout court. Donc voilà, s'il s'appelle X-Men tout court, c'est pour ça que Capcom s'est retrouvé obligé de mettre un petit sous-titre à son jeu de baston. Et donc déjà, dans ce Beat'em All, on trouvait tout ce qui faisait l'univers des X-Men. Hein, le grand méchant, c'est Magneto. Les ennemis, c'est essentiellement des Sentinelles. Les héros, pour le coup, le casting est un peu plus original. Bien sûr, on trouve Cyclope, on trouve Nightcrawler, donc Diablo en français. On trouve Dazzler, on trouve Tornade aussi, Storm. Et on trouvait Colossus aussi. Et bien sûr, Wolverine Serval, à l'époque, en français, dans le texte. Donc voilà, un jeu qui était plutôt basé, bien que ce soit l'heure de gloire de Jim Lee, qu'ils ont utilisé quelques extraits d'illustrations de Jim Lee pour faire les décorations sur les bornes, à la base, c'était quand même plutôt basé sur l'univers de base qu'avaient fait Claremont et John Byrne quand ils avaient repris la série. Donc on retrouve un peu les designs. Et le design aussi fait beaucoup référence au dessin animé qui va venir juste après, basé sur l'univers des X-Men. Donc voilà, donc un jeu qui n'était pas très réussi, honnêtement. Il a très très mal vieilli, pour le coup. Mais voilà, donc c'était une licence qui existait déjà, qui était déjà exploitée en arcade, dans un genre qui est quand même assez proche du jeu de baston, donc besoin de se différencier, donc X-Men, Children of the Atom. Et pourquoi Capcom a voulu faire ce jeu ? TMDJC va nous le dire.
Alors, le pourquoi du choix de Capcom, alors déjà, il va falloir qu'on fasse la différence entre Capcom Japon et Capcom USA. Clairement, le X-Men Children of the Atom est une commande de Capcom USA à Capcom Japon. Au même titre qu'on avait exprimé précédemment que Street Fighter 2 avait été une commande des Américains vers les Japonais, c'est exactement la même chose. L'enchaînement de développement, c'est une fois qu'ils ont eu terminé Vampire, ils ont tout de suite enchaîné le développement d'X-Men. Y a toute une partie de l'équipe qui est complètement identique en fait en termes de développement, et le moteur qui tourne sur CPS2 est le même. Donc le travail de base du jeu de combat, enfin les bases du jeu, s'appuient complètement sur le travail qui avait été fait sur Vampire, qui elle-même pompait déjà allègrement le travail qui a été fait sur Street Fighter 2. Au tout début du développement, il y a eu une question de, en termes de recherche de gameplay, combien on mettra de boutons, combien on fera, comment est-ce qu'on va proposer en fait un jeu de combat original, tout, etc. L'idée du 6 boutons pour ce jeu-là n'est pas du tout un clin d'œil à Street Fighter, pas à ce moment-là, c'est juste vraiment un confort de travail. Ils avaient une base, un jeu qui était déjà presque fait, ils se sont dit, ok, bon, là, on part là-dessus, parce que tout ce qu'on va pouvoir faire d'original, on va le faire parce qu'on n'aura pas de temps à perdre avec cette partie technique.
Sur la base, en fait. Quoi.
Exactement. Donc, le choix de Capcom là-dessus, c'est de faire un jeu de qualité, mais rapide. Donc, c'est surtout un travail en termes de gameplay et en termes de design qui va être mis en place, plutôt effectivement qu'une recherche de gameplay comme on a pu l'avoir sur les jeux précédents.
Juste un truc pour revenir sur la technique et sur CPS2. X-Men, tout comme Darkstalkers, il a ce qu'on a appelé déjà dans un précédent podcast la touche CPS2, où vraiment graphiquement, quand on le voit, le choix des couleurs, la manière dont sont rendus et réalisés les pixels, donne une identité visuelle à ce jeu qui est la même que celle qu'on retrouve dans Darkstalkers, dans Street Fighter Alpha, quelque chose qui est très fort et de très agréable à l'œil.
Bah pour enchaîner sur ce que dit Will Cook, sans humour, on pourrait très bien prendre un personnage de X-Men et de le mettre directement dans une licence vampire, ça ne jurerait pas. Il y a aucun
non,
problème.
Les sprites ont exactement le même rendu.
L'animation est similaire, il y a aucun problème.
Voilà. Et sur la base de la licence, donc Capcom a voulu faire X-Men, ou plutôt c'est Capcom USA qui allait demander donc à faire X-Men. Et X-Men, faut savoir pourquoi X-Men, parce que X-Men à l'époque, c'était une licence qui était super populaire en termes de BD. qui défonce, comme me dit le chef à côté de moi. À l'époque, c'est ce qui représentait les meilleures ventes de BD aux États-Unis. C'était tout ce qui était X-Men. Grosso modo, le top 40, j'exagère un petit peu, le top 20, c'était divisé entre les titres rattachés aux mutants et Spider-Man. C'est ce qui trustait les ventes à l'époque-là dans les comic books. Et donc, voilà, donc adapter X-Men spécifiquement en jeu vidéo, c'est quelque chose qui a du sens. Et on parle des États-Unis parce que ça vient de Marvel USA, mais à l'échelle du monde, c'est probablement une des BD les plus connues et les plus répandues dans le monde et qui se vend le mieux.
Sachant que moi, je me souviens qu'étant gamin, parce que je suis né en 86, donc à l'époque, j'étais quand même assez petit, le dessin animé X-Men. Oh là là, mais le dessin animé X-Men dans cette période, je sais pas si c'est exactement les mêmes années.
Alors, tu fais bien de dire, en fait, le dessin animé X-Men a commencé en 92. Il était encore en cours au moment où le jeu est sorti.
Voilà, c'est ça,
et même,
de diffusion.
Et même, il y a une référence directement au jeu dans, à la série animée dans le jeu, parce que les doubleurs du jeu.
Merci, bah voilà, bah tu l'as dit.
Vas-y, je te laisse finir la phrase, comme ça on fait un couple.
Les doubleurs de jeu, en fait, du jeu sont les doubleurs, en fait, de la licence animée, tout simplement. Donc, Capcom USA a été chercher les doubleurs officiels, et donc chaque personnage, en fait, est incarné, en fait, par le doubleur du dessin animé.
Mais un truc aussi qui était fort, c'est que vous disiez, vous parliez de la touche CPS2, de l'animation, du côté rond, etc. En fait, ce qui est fort, quelque part, c'est que si tu regardes, moi j'ai regardé la série de dessins animés X-Men il y a un an et demi, je me la suis refait. Visuellement, ça a un peu vieilli au niveau de l'animation, surtout la première saison. Mais après, en fait, il y a quand même quelque chose qui reste vraiment, c'est le chara-design, même dans le dessin animé, a encore super bien vieilli. Les voix. Aujourd'hui, le doublage, il est encore une fois merveilleux. En VO, hein, je parle, parce qu'en français, je ne sais pas, mais en VO, la voix, rien que la voix de Rogue, qui a une espèce de voix de fumeuse de gitane maïs, c'est fabuleux, tu vois. C'est vrai que quand j'étais gamin, le dessin animé, il était... la musique d'intro du dessin animé, quoi. Ça rendait fou, ce truc, quoi.
Non, mais alors, je te laisse parler, parce que toi, tu étais gamin, et tu as la vision du dessin animé avec tes yeux de gamin. Ouais. Quand tu lisais la bande dessinée et que tu la connaissais depuis un certain temps, ce qui était mon cas et peut-être celui de TMDJC qui lisait aussi à l'époque et de Sly, le dessin animé a quand même un énorme décalage par rapport à la BD et sur de nombreux aspects, c'est quand même un massacre de l'histoire, des personnages, de l'univers qui opéraient assez systématiquement par chaque épisode. Donc ça, c'est dur.
T'as quand même toute une génération qui a découvert X-Men avec ça.
Oui, tu as toute une génération qui a découvert X-Men avec ça.
Et du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont découvert X-Men via la licence de Capcom et qui s'appuient sur ces relents du coup de modifications qui ont été faits à travers le dessin animé et à travers le jeu, mais on va en reparler
après. Après, à quoi le dessin animé, son succès, tout ce qui est caractère design et tout ça, c'est effectivement tout ce qui remonte à Jim Lee quand il avait lancé le spin-off de X-Men. Bon, à la base, la série canonique de X-Men, c'est Uncanny X-Men. Même si aujourd'hui, je crois que ça n'existe plus, c'est Uncanny X-Men. Maintenant, ils avaient fait un spin-off qui s'appelait X-Men. Et ce spin-off, en fait, c'était Chris Claremont et Jim Lee qui travaillent ensemble sur la série X-Men, qui ont lancé une nouvelle série à côté. Ça se faisait beaucoup, ça s'est fait pour Spider-Man, ça s'est fait sur plein de séries à l'époque.
Même chez la concurrence, parce que chez DC, ça se faisait également.
Chez DC, ça se faisait depuis encore plus longtemps. Mais voilà, Marvel, à un moment, c'était une époque, les X-Men, ils avaient 10 séries pour eux. Spider-Man en avait peut-être 5 avec lui comme personnage principal. Bon, à cette époque-là, c'était Jim Lee avait quitté quand même Marvel depuis 2 ans. C'était Andy Kubert qui s'occupait de dessiner la série. Et effectivement, tout ce qui est artwork et design dans le jeu, en fait, ce travail se base sur des dessins et des créations d'Andy Kubert en termes de rendu graphique. Mais Andy Kubert ayant un style très proche de Jim Lee, ça faisait un style globalement, quand on voit le jeu, on voit du Jim Lee animé. Et ça, pour tous les gens qui ont vu la chose à l'époque, il y avait de quoi rester sur le cul. Quand tu étais fan de comic book et que tu voyais ce jeu bouger, et ce jeu arriver avec ce rendu-là, bah, franchement, t'es obligé de tomber amoureux du jeu, quoi qu'il arrive. Après, voilà, bon, il y a le jeu de combat en lui-même qui est quand même peut-être dur à approcher, mais ça, on va en parler un peu plus tard. Mais voilà, mais cette touche-là graphique est super importante et fondamentale. Ils ont fait un effort de restitution qui est assez unique en termes de rendu de bande dessinée en jeu vidéo.
Concrètement, pour rebondir là-dessus, les gens qui découvrent la bande d'arcade dans le contexte, donc entre en 94 ou 95 pour ceux qui l'ont découvert en France, se trouvent confrontés à une borne qui propose des personnages qui sont quand même vraiment visuellement assez grands, qui est une animation qui est très nerveuse. Ceux qui ne connaissent pas la licence en fait retrouvent automatiquement la patte de Capcom qui est vraiment marquée, parce que Capcom a su garder cette force d'avoir à la fois ce rendu graphique qui est très capcomien, mais donc effectivement complètement et intrinsèquement lié avec l'univers Marvel. Et tout ça se marie sans défaut, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de choses qui choquent à l'œil. L'animation est donc ultra rapide et tout de suite, on a envie de mettre les doigts sur le jeu. Le jeu est extrêmement bien réalisé déjà visuellement.
Franchement, la première fois que j'ai vu une photo dans un magazine, j'ai bandé. Franchement, il n'y a pas d'autre mot. Hein.
Ah, bravo. Par contre, en termes d'histoire, justement, ça suit les comics de l'époque. Ça suit quoi, en fait?
Alors,
comme
en
ça
fait,
se passe
en termes d'histoire, ça se base sur une storyline, pardon, un arc scénaristique en français, qui s'appelle Fatal Attraction. Fatal Attraction, je francise le nom, hein, Fatal Attractions en anglais. Donc, en fait, c'était un petit bout d'histoire où, comme d'habitude, Magneto revient sur son astéroïde Avalon. Comme d'habitude, il veut éradiquer la race humaine pour mettre les mutants à la place. Et que cette fois, l'idée, c'est de balancer son astéroïde sur la Terre, si je me souviens bien, pour que tout le monde meure et seuls les forts survivent. Donc, sinon, dans le jeu, en fait, on trouve aussi beaucoup de références à l'univers Marvel en termes d'endroits. On voit la salle des dangers, on voit à un moment le Blackbird, qui est en fait le jet d'assaut des X-Men, basé sur la technologie Shi'ar. Ça y est, je passe mes trucs de geek et de nerd. On voit quelques personnages secondaires, on voit apparaître le professeur Xavier dans la salle des dangers, on voit dans les séquences de fin aussi apparaître quelques personnages régulièrement.
Moi, j'ai pas compris, il y a un stage dans lequel il y a des dinosaures partout.
Ça doit être la Terre sauvage.
Ouais, c'est ça, ça veut rien dire. Voilà, il y a des dinosaures qui se donnent des coups de
tête. Non, en fait, c'est un endroit qui se trouve dans l'Antarctique, vu que tu veux me lancer là-dessus, qui est le domaine de Khazar, d'ailleurs, qui est resté comme à l'état du Jurassique, avec des hommes qui vivent perdus au milieu, on sait pas pourquoi.
Et oui, c'est tout à fait logique d'avoir une jungle tropicale dans l'Antarctique.
T'inquiète pas, ah, oui. Tu as exactement la même chose chez DC. Hein. Ça, c'est des constantes dans les univers de comic book que tu retrouves assez régulièrement. Donc voilà, on voit par exemple aussi dans le niveau de Silver Samurai, on voit les ninjas de la main qui apparaissent là au fond, qui font référence à cette secte d'assassins et tout ça. Voilà. Donc voilà, juste pour le fan, c'est un jeu qui te prend par le cœur.
Et c'est beau, c'est vrai. Donc merci, oui, Wellcook, pour ces précisions. Et effectivement, on va peut-être passer au système de jeu, au gameplay. Ouais. Qu'est-ce qu'il en est ?
Alors, c'est assez intéressant de voir aujourd'hui, de rejouer en fait aujourd'hui à Children of the Atom, quand on voit qu'il y a eu des jeux X-Men, notamment Marvel vs Capcom 3, qui sont sortis ces dernières années. Après un gros blanc, parce qu'il n'y a pas eu tant de jeux que ça ces 10 dernières années quand même en crossover Marvel. Il n'y a eu que Marvel 3 et son extension. Mais là où c'est amusant, c'est que quand on prend Children of the Atom en main aujourd'hui, et si on a joué que à un jeu récent de Marvel, on retrouve tout de suite des marques. Mais vraiment des petits trucs, des petits détails qui sont spécifiques au gameplay Marvel, comme on l'appelle en fait, au gameplay versus finalement.
Devrait-on dire parce que,
voilà,
parce
alors
que
justement, ça... mais c'est quoi alors ces détails là en question?
C'est globalement en fait, c'est un mélange de mécanique de jeu et de liberté, d'action, une sensation, un flottement des personnages, la manière dont ça bouge. Enfin, il y a plein de choses qui font que ça, qu'on retrouve tout de suite la sensation.
En fait, le vrai truc qui tranche beaucoup par rapport à ce qu'on voit d'habitude chez Capcom, c'est la liberté de mouvement qui est beaucoup plus grande que ce qu'on a pu voir de base dans Street Fighter, peut-être un peu plus que dans Darkstalkers.
En fait, le truc déjà qui te choque quand tu commences à jouer à ça, c'est que déjà, le premier match que tu fais quand tu le lances, comme dans Darkstalkers, tu retrouves le fait de pouvoir bouger avant que le match commence. Déjà, ça en dit long sur le match en lui-même.
Non, ça c'est une nouveauté. Excusez-moi,
c'était
mais
déjà
en fait,
dans le premier Vampire,
tu ne peux pas faire ça. Ça vient de cette licence-là.
Ça vient de cette licence-là.
Exactement. Oui. Et alors, il faut savoir, on le disait tout à l'heure, les deux jeux ont été enchaînés à la suite, mais si vous regardez en fait les développements qu'il y a eu entre la version, enfin entre ce qu'on appelle les licences versus, et on inclut X-Men dans les licences versus, même si c'en était pas un véritablement, et la série Darkstalker, les jeux étaient une réponse à chaque fois, ouais, à l'autre. Les modifications de gameplay qui ont été apportées dans l'un très souvent étaient incorporées dans l'autre jusqu'aux dernières versions où ils ont vraiment chacun pris
une direction différente.
Excuse-moi, du coup, c'est quoi les licences versus exactement ?
Alors, en fait, ce qu'on appelle licence versus, en gros, c'est X-Men Children of the Atom, donc le premier dont on parle aujourd'hui, Marvel Super Heroes qui lui a succédé, ensuite venu X-Men versus Street Fighter. X-Men versus Street Fighter, puis Marvel versus Street Fighter, puis Marvel versus Capcom, puis Marvel versus Capcom 2, puis Tatsunoko versus Capcom qu'on peut mettre dans cette série-là
et
parce
qu'il
reprend
deux.
Un truc, et il y en a eu deux. Et ensuite Marvel versus Capcom 3 et son extension. Donc en gros, c'est toute une série de jeux, mais qui, comme je disais, en fait, sont peut-être plus liés finalement par le gameplay et par certains aspects qui sont pas forcément liés à la licence X-Men, parce que Tatsunoko, par exemple, a des aspects qu'on retrouve. Mais en gros, par exemple, tu vois, ce qu'on disait, c'est que le mouvement, tu vois, tu pouvais commencer à bouger avant même que que ça marque round one, fight, tu vois, comme ça, tu commences à bouger. Et là, tu te rends compte que, comme disait TMDJC tout à l'heure, ils ont bien gardé les 6 boutons, mais ils en ont fait des choses qui sont complètement différentes. Déjà, premier réflexe que tu vas avoir quand tu joues à un jeu que tu connais pas, t'appuies sur tous les boutons comme un enfoiré et on tape pas sur la table. Et là où s'il se passe quelque chose, t'appuies sur 2 boutons de poing et là ton personnage tout d'un coup il avance. Et ça c'est un truc quand tu commences à jouer à X-Men, t'es là mais quoi ?
Oui, bah pourquoi alors justement ?
En fait, parce
là,
que
ça me paraît étrange.
Alors en fait les raccourcis existent dans le jeu effectivement avec 2 boutons de poing ça suffit, mais Capcom en fait explique que de base le gameplay de base c'est que il y a effectivement dans X-Men une course et pas un dash, parce que pour la première fois on se retrouve avec ces caractères spécifiques parce qu'il y a certains personnages qui dashent, mais le concrètement ça y est, on a enfin des personnages qui sont capables de courir. On a un dash arrière qui est un vrai dash arrière. Quand les personnages reculent, c'est pas en recul de quelques pixels, c'est en recul d'un demi, voire d'un écran en entier suivant les personnages. Et le dash avant ou la course avant, effectivement, peut être fait avec 3 boutons points à la fois. De plus, alors, normalement, sur le gameplay de base, c'est 3. Les raccourcis existent, et effectivement, 2 boutons sont acceptés, mais on t'explique que c'est 3 boutons. Au même titre que le high jump existe, le super saut en français existe pour la première fois dans une licence Capcom, on va pouvoir, d'ailleurs, j'ai envie de dire pour la première fois dans un jeu de combat tout court, on va pouvoir sauter si haut, eh ben, les 3 boutons pieds te permettent de sauter automatiquement. Et ce qui est impressionnant, c'est que les 2 sont cancellables. Vous pouvez canceller un dash par un high jump, et donc vous pouvez faire 3 points, 3 pieds, le personnage court et s'envole.
Juste un commentaire, c'est qu'effectivement, comme le disait TMDJC, officiellement, les commandes, ce n'étaient pas les raccourcis des boutons. Et d'ailleurs, dans les flyers du jeu que tu vois là, on ne voit pas les raccourcis des commandes. Il faut déjà être un joueur avancé, ou comme d'habitude, tu appuies sur tous les boutons, tu te rends compte que ça faisait des trucs bizarres, ce qui nous arrive à tous. Mais voilà, il faut déjà être un joueur avancé pour comprendre et connaître cette mécanique-là. Ce n'est pas une mécanique de base.
Mais là où c'est vraiment impressionnant, c'est que c'est l'espèce de... Comment dire, c'est décomplexé, en fait, comme jeu. Tu vois, quand ça sort, Darkstalkers était un peu décomplexé, enfin Vampire, c'était un peu décomplexé, mais c'était peut-être plus dans le visuel, dans certains aspects. Ce qu'on en avait parlé, c'était assez, c'était une sorte de Street Fighter, mais pas tout à fait, avec un. C'était l'univers qui était décomplexé plus.
Il a fallu attendre le deuxième épisode pour vraiment trouver, et avec l'arrivée du Shen Combo, pour que ce soit vraiment si décomplexé que ça.
Voilà, c'est plus l'univers en fait qui était décomplexé. C'est comme si tout d'un coup. Après avoir fait le premier Vampire, tu vois, où il s'était un peu lâché en mode un peu, comme on avait dit dans le précédent podcast, un peu égotique, genre on est Capcom, on n'est pas n'importe qui, alors on vous sort un truc qui dépote visuellement avec des persos que vous ne verrez nulle part ailleurs, parce que vous faites des ninjas, des samouraïs, des combattants de rue, bah nous on faisait des vampires, des loups-garous, des momies, enfin tu vois, déjà à l'époque, voilà, et là en fait c'est un peu la même chose, mais pour le gameplay. En mode, ah ouais, bah là, vous êtes tous en train de faire des trucs de samouraï qui sont cloués au sol, en train de balancer des coups de sabre, ou ouais, ok, vous pouvez peut-être avoir trois persos par-ci, trois persos par-là. Bah là, en fait, tu peux tout d'un coup sauter super haut avec le décor qui rame pas du tout, mais alors vraiment, le stage qui monte super haut, t'as des détails dans tous les sens. Les stages, en plus, bougent, puisqu'on a des stages amovibles, souvent dans des ascenseurs ou dans des décors qui bougent, qui se modifient.
D'accord, qui se modifie en fonction des coups, il y a des choses qui se cassent aussi.
Des événements, comme ça. Il y a des événements même voir d'un moment à l'autre du stage suivant le round, etc. Donc oui, non, tout est en évolution constante. En fait, et juste pour rebondir sur ce que tu disais, il y a deux aspects. C'est que précédemment, Capcom, le but du jeu pour eux, c'était de prouver à SNK, entre autres, qu'ils étaient meilleurs qu'eux. Au même titre que SNK essayait de prouver à Capcom qu'ils étaient meilleurs qu'eux. Mais là, pour la première fois, en fait, le problème, il n'est pas là. Là, c'est une commande faite à Marvel, donc avec une licence Marvel. Et le but du jeu, en fait, c'est pas vraiment d'impressionner SNK. Là, pour Capcom, c'est d'impressionner Marvel, de dire, écoutez, nous, on travaille avec vous, mais voilà, regardez les jeux, ce qu'on a fait avec les jeux Disney déjà, regardez ce qu'on a fait avec telle ou telle licence. Capcom sont des gens qui sont tout à fait capables de travailler avec n'importe quelle autre structure et de proposer, par défaut, des jeux de qualité, en tout cas à l'époque. Là, quand ils se mettent à travailler sur X-Men, ils ont vraiment la volonté de faire un jeu de qualité. Et si jamais, comme on le disait tout à l'heure, ils s'appuient sur des choses qui ont déjà été faites, c'est pas pour dire, on est des feignants, c'est parce qu'ils vont s'appuyer sur des choses qui fonctionnent réellement à l'époque, un travail, une plus-value en fait qui est déjà présent, sur lesquels ils vont vraiment pouvoir greffer en fait quelque chose de qualité. C'est Marvel qu'ils essayent d'impressionner et pas quelqu'un d'autre.
Et le truc, c'est que pour impressionner Marvel, étant donné qu'à l'époque, enfin, on a parlé tout à l'heure quand même avec passion, genre le dessin animé, les comics, tous ces trucs-là, enfin. C'était des images, les gens se les imaginaient vraiment dans la tête. Le dessin animé, c'était un peu la concrétisation, mais l'animation, en fait, était un peu, comme on disait, un peu naze dans la première saison. Et là, tout d'un coup, ça bouge, mais c'est encore plus fluide que dans le dessin animé. Quand ils regardent bien, les mecs, ils font des sauts, mais c'est incroyable. Ils ont des pouvoirs, tous les personnages, on retrouve leurs pouvoirs. On fera plus dans le détail tout à l'heure, mais les personnages retrouvent leurs pouvoirs. Et surtout, vraiment, je pense que c'est un peu le maître mot de ce jeu-là, c'est que ça bouge. Vraiment, ça bouge. Partout. Les persos sautent, les persos avancent dans les airs, ils vont parfois en diagonale. Il y a certains persos qui peuvent se déplacer dans des diagonales alors même qu'ils sont en l'air, ils peuvent se suspendre dans les airs, certains s'accrochent au mur et rebondissent sur un mur. Enfin, c'est le mouvement en fait, vraiment, ce jeu.
Et ce qui est absolument incroyable, c'est que dans tous les jeux précédents, y compris dans Vampire, il y a certains sprites qui étaient figés. C'est-à-dire que par exemple, sur certains coups, genre les dragons par exemple, c'est le même sprite qui se déplace. Dans X-Men, il y a une animation constante. Il n'y a pas de moment où votre personnage reste figé complètement, et même quand il y a un coup qui reste dans le temps, vous voyez qu'il y a plusieurs sprites qui sont entremêlés pour que le vêtement continue à bouger, pour que le muscle continue à se gonfler, ou etc. Il y a un vrai travail au niveau de l'animation.
Juste un petit truc, c'est que tu dis que ça redonne un imaginaire lié à ce qu'on peut concevoir de ces comic books. Le jeu, en réalité, il est quand même super aérien, ce qui est assez nouveau chez Capcom aussi. Et en fait, ce côté super aérien, honnêtement, ça relève plus du manga que du comic book. Vraiment. Hein. C'est quelque chose où les personnages partent en l'air, se bastonnent en l'air, machin truc. C'est pas très. On fait beaucoup d'acrobaties dans le comic book, c'est vrai, mais c'est pas si aérien que ça. Donc c'est quand même quelque chose, tu vois, le Japon apporte quelque chose quand même à l'imaginaire qu'on peut avoir déjà de base par rapport à ces créations américaines.
Je souris, mais sur les prises de notes que j'ai, c'est véridique, hein, sur les prises de notes que j'ai vues, j'expliquais que le X-Men était vraiment la rencontre entre le comic et le manga, et je suis totalement du même point de vue que Will Cook là-dessus.
Non, mais c'est vraiment plus que si tu regardes bien, les seuls personnages qui finalement volent, déjà dans Children of the Atom, c'est Storm et Magneto. Et après, t'as d'autres persos qui peuvent sauter deux fois, par exemple, parce qu'ils sont plus agiles dans le genre, c'est Psylocke et Cyclope, si je me souviens bien.
Cyclope, il
a un double jump, il me semble, Cyclope, ouais. Donc voilà. Enfin, et donc, le truc, c'est que finalement, toute la donne du gameplay change à partir de ce moment-là. C'est-à-dire qu'avant, tu étais un peu cloué au sol et le but, c'était d'avoir de trouver une bonne distance, l'espèce de mi-distance que tu cherches avec tes coups normaux et d'essayer de toucher le type en face et puis d'enchaîner, par exemple, avec un Hadoken ou un Tatsumaki. Et puis à l'époque, ça faisait beaucoup de dégâts, voire dans Street 2 tout court, ça se tenait complètement. Et voilà, tu vois, tu gagnais en fait. Fallait s'imaginer que le jeu de combat, c'était comme deux types dans un vrai combat martial qui essaient de se taper avec le bout de la chaussure pour pas se faire mal au tibia en foutant leur tibia dans la tête de l'autre, tu vois, c'était un peu le principe. Et là, tout d'un coup, tu peux peut-être encore rester un petit peu dans ça, mais le jeu va tellement vite, et il y a tellement les dashs, comme on disait, on appuie sur deux boutons et le personnage, il avance directement, t'es plus en fait dans la même règle. Tout d'un coup, il y a tout qui est bouleversé, en fait. Si tu retrouves bien les boutons, si tu retrouves bien le fait d'enchaîner plusieurs coups ensemble, de faire des combos, d'avoir des supers, d'avoir des coups spéciaux, des quarts de cercle, des dragons, des choses comme ça, l'utilisation que tu vas en faire va être différé, quoi, vraiment.
Mais même dans ce cas de figure, ça change encore, puisque concrètement, si on parle de jeux classiques comme Street Fighter, le bouton faible, moyen, fort permettait par exemple de changer la vitesse du projectile. Là, dans X-Men, en fait, c'est l'angle du projectile qui va évoluer. Par exemple, souvent, alors c'est pas parce que c'est encore caractère spécifique, mais souvent, le faible permet d'attaquer en bas, le moyen permet d'attaquer au milieu ou en diagonale, et le fort, dans tous les cas de figure, est une diagonale plus ou moins haute. Donc, rien que là, dans le principe en fait des projectiles, on est complètement en fait dans quelque chose de différent de Street Fighter, et cette toute petite subtilité, c'est un fossé de gameplay finalement entre ce qui a été fait avant chez Capcom et maintenant.
En fait, l'intérêt d'avoir ces trois directions de projectiles, c'est parce que c'est un jeu aérien, et si on veut occuper l'espace de manière aérienne, il faut être capable de balancer des kamehameha dans tous les sens.
Puis le jeu va tellement vite qu'à moins qu'il y ait un projectile royalement lent et qui reste à un endroit, ça sert strictement à rien de nuancer la vitesse.
Voilà, c'est ça en fait. C'est-à-dire que la vitesse du jeu, on va pas dire qu'elle est constante, mais elle est rapide quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que tu vas pas commencer à jouer lentement. Et là où c'est intéressant, c'est comme on disait, certains personnages, tous les personnages peuvent sauter, mais quand ils sont en l'air, ils peuvent influer sur la manière dont ils montent et ils descendent en allant à gauche ou à droite par exemple. Donc s'il y a quelqu'un qui au sol t'emmerde en t'envoyant des tas de projectiles, bah tu t'embêtes pas, t'appuies sur trois boutons, ton perso il saute tout au-dessus, il retombe directement sur le type. Et voilà, et tout d'un coup, c'est comme si tu cassais tout ce que tu savais déjà faire, tout ce que tu avais travaillé, en fait. Et à peu près tout dans le jeu, en fait, va se transformer, va devenir quelque chose d'autre, quelque chose de différent, en fait.
Et Street Fighter 2 était un jeu qui était quand même relativement neutre dans le sens défense-attaque. Children of the Atom est vraiment un jeu offensif. On est vraiment dans un jeu d'attaque. Et clairement, il y a certains personnages qui ont des éléments qui sont infinis, qui sont très très simples à mettre en place. C'est comme si tout d'un coup, on avait les Rapid Fire de Street Fighter 2 que tous les personnages pouvaient faire tout le temps. Et ça change complètement la façon de
rappeler. Rappelle ce que c'est qu'un Rapid Fire pour ceux qui n'ont pas connu Street Fighter.
Alors le Rapid Fire, en fait, qui ne se faisait que avec le point faible, voire le pied faible pour certains personnages, était le fait de matraquer en fait le bouton et le personnage enchaînait les coups. En fait, c'est comme si on pouvait canceller son coup tout le temps en fait par le même. Mais sauf que comme ça fait déplacer le personnage au fur et à mesure, ça n'a qu'un temps limité. Alors sauf des Guile qui ont des points faibles qui font la taille d'un point fort, ce qui a été corrigé par la suite. Mais là, dans Children of the Atom, c'est vraiment différent. C'est que certains coups sont parfois des coups moyens, voire des coups forts que vous pouvez en fait enchaîner assez simplement.
Donc si je comprends bien, c'est un jeu fluide, dynamique, qui a une nouvelle dimension aérienne qui ne se retrouvait pas en fait dans d'autres jeux à l'époque, même ou avant. Et donc qui est novateur au niveau de certaines règles de gameplay. Donc si je comprends bien, par contre, le dash, je ne suis pas sûre de bien comprendre, parce qu'en fait, pour moi, le dash, donc, c'était deux fois avant pour les jeux que je connais. Et là, donc, on peut le faire.
Tu peux toujours le faire en faisant deux fois avant.
Tu peux le faire d'ailleurs, parce que c'est
Et du coup, ça revient au même que d'appuyer sur les deux boutons.
Ça revient exactement au même, en fait. Le truc, c'est
de se dire... Quel est l'intérêt, alors ?
Alors, l'intérêt, c'est de se dire, bah, par exemple, pendant que tu appuies sur deux boutons pour faire un dash, et bah, avec le stick, tu peux faire un quart de cercle pour préparer un projectile. Tu vois, c'est une manière, en fait, de dire, bah voilà, vous allez pouvoir préparer, en fait, vous allez pouvoir jouer encore plus vite. On vous donne en vous donnant deux manières, en fait, de faire la même chose. Et ben, on libère le joystick comme ça et on te permet de préparer pour faire autre chose. Et par exemple, une des choses avec Storm, si tu prends Storm dans le jeu, qui est un des seuls personnages qui peut se déplacer dans les 8 directions une fois qu'elle est en l'air.
Wolverine aussi d'ailleurs.
Wolverine avec le Drill Claw.
Ouais, tout à fait.
Et ben, en gros, tu vois, il y a 8 axes. Voilà, vraiment. Et ben, si tu appuies sur les deux boutons de dash quand t'es en l'air plus une direction, eh ben, tu vas aller dans cette direction. Donc, par exemple, tu as sauté neutre tout droit avec Storm. Tu fais diagonale haut gauche avec ton stick, le truc que tu faisais jamais juste pour fuir. Mmh. Eh ben, tu appuies sur deux boutons et Storm s'envole vers le coin inférieur gauche de l'écran. Chose que tu pourrais faire, tu vois, tu pourrais faire deux fois haut gauche sur ton stick, mais c'est un peu galère quand même, tu vois.
Et puis, ouais. comme le disait Sly, les rares personnages qui ont des éléments à charge, eh ben, ça te permet de charger en fait ton coup et de dasher malgré tout.
On peut peut-être revenir aussi sur des éléments un peu plus basiques du gameplay, parce qu'on oui, on l'a pas très bien
idée.
Décrit.
J'allais y venir en fait.
Parce qu'en fait, donc, dans ce jeu, on trouve, comme on l'a dit, tous les éléments de base d'un Street Fighter. Il y a le stick directionnel, il y a les 6 boutons. À la nuance que par rapport à un Street Fighter, c'est quand même très varié, les effets des 6 coups. Et pour quelqu'un qui a l'habitude de Street Fighter, il y a moyen de se sentir perdu et confus là-dessus. Donc c'est pas un jeu facile à aborder malgré tout, à ce niveau-là, déjà dans son gameplay de base. Tu veux rajouter quelque chose ?
D'ailleurs, juste une parenthèse, vous remarquerez, on disait tout à l'heure le lien de parenté avec Street Fighter, mais volontairement, Capcom ne fait pas de lien direct, en tout cas au moment du développement du jeu, entre Street Fighter et X-Men, ce qui n'était pas du tout le cas avec Vampire, avec la série Darkstalker, où les références étaient constantes.
Clairement. Et il y a un truc, par exemple, si tu regardes les coups normaux, tu vois, tu fais petit point, alors c'est un petit coup qui va très vite, tu fais petit pied, c'est un petit coup qui va très vite aussi, tu fais bas petit pied, bah, ça ouvre la garde comme n'importe quel jeu. Par contre, tu fais bas médium, ça fait tomber l'adversaire, tu vois, contrairement à un jeu comme Street Fighter où le bas médium est souvent le coup qui va le plus loin et qui te sert, tu vois, à chercher l'adversaire à distance. Là, tout d'un coup, il fait tomber, alors tu te dis le bas gros pied, celui qui d'habitude fait tomber dans Street Fighter, dans tous les jeux, il sert à quoi ? Eh ben, il sert à envoyer un adversaire en l'air. Tu vois, c'est un bouton qui, pour beaucoup de personnages, c'est au lieu de taper vers le bas, en fait, le coup généralement est ascendant et fait que ça envoie l'adversaire en l'air pour, par exemple, pouvoir lui faire l'enchaîner ensuite. Donc, comme disait TMDJC, les habitudes que tu as sur Street Fighter sont modifiées, sont perturbées. En tout cas, rien que sur le layout des boutons, c'est le cas. Et puis comme on vient de l'expliquer, avec tout ce qui est mouvement, jeu aérien, capacité finalement à faire des choses pendant que tu es en train de faire d'autres choses, tu vois, tout d'un coup, tu deviens multitâche, alors que jusqu'ici, tu avais l'habitude d'avoir de penser la prochaine action en amont. Là, tu es déjà en train de la faire quelque part.
En simultané, quoi.
Voilà, c'est ça.
Et les deux s'entremêlent, c'est-à-dire que comme on le disait tout à l'heure, on peut faire un high jump en faisant bas, haut, et dans ce cas-là, en fait, on a les boutons qui sont libres pour taper, ou alors on décide de faire les deux pieds en même temps ou les trois pieds en même temps, et là, dans ce cas-là, on peut mettre une direction. Donc, en fait, tout est cumulable.
Après, c'est pas tout, il y a d'autres choses dans le gameplay. Il y a la capacité à se relever. Je ne sais pas si c'est la première fois qu'on voit ça dans un jeu Capcom.
Non, parce qu'on l'avait dans Vampire, du coup.
On l'avait dans Vampire. Et donc là, il y a capacité de se relever sans souci. Il y a aussi le fait...
Alors oui, capacité à se relever, c'est-à-dire quand tu le choisis, qu'est-ce que c'est
en fait ? En fait, c'est quand on te fout au sol, si tu fais un bouton et une direction, en fait, ton personnage va rouler dans une direction ou une autre. Si par exemple, tu vois, tu es dans le coin, que ton adversaire t'a mis au sol dans le coin, tu appuies sur avant plus un bouton, et bah, tu vas te relever en roulant en fait, dans le dos de ton adversaire. Ou à l'inverse,
d'accord,
tu vas rouler en
avant. Ça te permet de te déplacer au sol.
Voilà, ça te permet de t'extraire en fait. Et ça, c'est une sacrée nouveauté parce que là, on vient de décrire tout un tas de trucs qui font que le jeu est offensif. Mais il ne faut pas oublier qu'il y avait des options défensives dans le jeu qui essayaient de contrebalancer un peu tout ça parce qu'il y en avait besoin quand même.
Sur le gameplay, c'était 3 boutons. Normalement pour se relever et une direction, tout à fait.
Et il y a aussi une autre chose fondamentale qu'on n'a pas vu souvent dans un jeu Capcom pour le moment, c'est la capacité de pouvoir s'acharner sur l'adversaire. C'est-à-dire qu'on peut l'envoyer un petit peu en l'air comme disait Nathan, on peut taper dessus. Quand il est au sol, on peut aller lui mettre un coup aussi.
Voilà.
Donc ce qui a abouti à quelques abus dans le jeu.
Oui, c'est un peu vachard ça. Enfin,
c'est un peu la base de tous les infinis qu'on peut voir dans le jeu.
C'est-à-dire qu'en plus, comme il y a certains coups qui vont te faire rebondir, en fait c'était le début on t'enchaîne à l'infini. C'est vrai que certains personnages, malheureusement, et c'est peut-être le défaut du jeu là-dessus quand on commence vraiment à bien savoir jouer, c'est qu'une fois que vous avez été touché, si jamais le joueur est très bon, vous risquez de ne pas pouvoir jouer du tout.
Un peu à la Okutonoken, mais bon, ça c'est un peu plus récent comme jeu. Il y avait aussi dans les éléments de base de gameplay, il y avait un mode manuel et un mode automatique.
Voilà.
Donc en fait, le mode automatique, en fait, c'est la garde qui est automatique. Le joueur, s'il ne touche pas à rien, en fait, quand il se prendra une attaque, il sera protégé automatiquement.
Alors, il ne se protège pas de tout. En fait, on ne peut pas se protéger des super attaques. On va revenir sur cette information-là. Mais effectivement, tous les coups classiques et spéciaux sont automatiquement protégés, sauf si bien sûr on touche un bouton et
que
qu'on
ce
est
soit
en pleine action.
En haut, en bas,
que
peu
ce
importe.
Soit en haut, en bas. Et c'est donc la première fois que Capcom en fait propose un mode auto comme ça, qu'on reverra plus tard, on l'a exprimé dans la licence Darkstalker et qui sera gardé aussi dans la licence Street Fighter, dans la série des Alpha, on y reviendra également, et dans Marvel, et on vient...
Et dans des tas d'autres jeux, parce que par exemple, Tekken a eu de l'autogarde très rapidement aussi, je ne sais même pas si c'est dans le premier, mais là
mais
toujours
mais
même
c'était,
aussi.
C'était un mode normal de fonctionnement. Là, Capcom ouais, avait cette volonté, en fait, de vouloir... parce que, grosso modo...
Attends, t'es MDJC, je vais te dire tout de suite, c'est écrit textuellement dans le flyer, mais il y a des limites au mode automatique... Vous devez prendre le challenge du mode manuel pour réussir à maîtriser tous les éléments de X-Men Children of the Atom. C'est déjà explicitement dit. C'est une facilité si tu veux découvrir le jeu, mais si tu veux devenir bon au jeu et devenir fort, il va falloir essayer de jouer normalement.
Mais il n'y avait pas de pendant dans ce jeu-là.
Non,
alors que
il n'y avait
dans
pas
les
de
autres,
pendant.
Dans les autres jeux Capcom, c'est vrai, on y reviendra plus tard, si jamais tu étais en mode automatique, tu avais moins de possibilités que si jamais tu étais en mode normal.
Et un truc qui est marrant aussi qu'on a...
Parce qu'on parle pas de mode manuel, mais de mode normal, du coup.
Mm-hmm. Un truc que tu disais qui était un peu vache, justement, le fait de pouvoir enchaîner son adversaire quand il est au sol. Un truc qu'on pouvait faire aussi, c'est qu'on pouvait choper son adversaire. Et quand on le chopait, généralement, on le projetait soit en l'air, soit... Il y avait des gens qui avaient des projections qu'on voyait dans les airs, littéralement. Donc, en fait, t'appuyais sur les trois boutons et oup là, c'était la fête. Ou alors, ça le foutait au sol, un petit peu comme n'importe quelle projection dans n'importe quel jeu de baston. Sauf que comme tu pouvais récupérer, si t'étais dans le coin, par exemple, ou si t'étais rapide, tu faisais projection, t'appuyais sur deux boutons, ou alors avec le stick, tu faisais deux fois bas, enfin deux fois avant, et là, tu récupérais le type au sol, et tu le relançais dans les airs, et c'est reparti, en
fait. Tu pouvais le rechoper au sol.
C'est ça.
Ah non, pas le
rechoper. Non, pas le rechoper, enfin, le rattraper. Le rattraper.
Ça,
non,
donc...
Non, tu le chopes, enfin, tu le projettes, en fait, tu le suis, tu le poursuis, en fait, tu le tapes avec un coup qui tape bas, et là, c'est parti, tu retournes
après,
dans les airs,
et...
tu enchaînes, quoi, voilà.
D'accord. Il y a plein de
trucs. Donc, tu dis, il y a plein de trucs comme ça. Et donc, ça. C'est les éléments de base du gameplay. Après, il y a l'élément fondamental qui fait l'identité du jeu, c'est la jauge de X-Power.
Voilà, la jauge de X-Power, en fait, qui...
Moi, j'aurais préféré qu'elle s'appelle Factor X, mais bon, ça, c'est parce que je suis un fan hardcore. Hein.
La jauge de X-Power, en fait, qui s'appuie sur un système de coloration. Et la barre, en fait, pour se remplir en entier, en fait, va changer de couleur.
Alors, précise d'abord, il y a une barre sous la barre de super, la barre de vie. Sous la barre de vie, en fait, il y a une espèce de barre colorée en paillettes qui ressemble à une espèce de soirée disco années 90 et qui est vide quand on commence. Et qui se remplit, c'est
ça ? Elle n'est pas vide complètement.
Si, j'ai testé tout à l'heure, elle est vide complètement quand on commence.
Ah, donc elle est...
Ça se règle peut-être dans les switches du jeu, il faudrait regarder.
Alors, mais ouais,
faut voir, à vérifier.
En tout cas, lors du premier niveau...
Alors déjà, c'est une jauge en trois niveaux.
Ouais, alors, on ne les voit pas, les niveaux.
Si, c'est marqué quand tu atteins le niveau, il est marqué level 1, level 2, level 3.
Oui, mais on voit pas.
Ils ne sont pas matérialisés sur la barre.
Voilà, quand la barre est vide, on ne voit pas la barre de niveau.
Mais on t'informe quand tu atteins le niveau.
Donc la première couleur qui est proposée, qui est la couleur bleue, te permet tout simplement d'accéder à tes coups spéciaux normaux. Ce qui veut dire que pour la première fois, on a un jeu de combat. Alors rassurez-vous, la barre de coups spéciaux, elle s'atteint, mais quasiment tout de suite. Hein,
une seconde sur le compteur, elle passe.
Mais ça veut dire qu'on a un jeu qui te permet pas de démarrer dès le début, en fait, en lançant, comme ça aurait été le cas dans Street Fighter 2, par un Hadoken ou...
Comme c'est original.
Voilà.
Non, c'est ça. Le but, en fait, qui est marrant dans ce jeu-là, c'est que ce que ça veut dire, en fait, ce truc-là, de te dire quand tu commences au début, t'as rien, t'es un peu à poil, t'as que tes coups normaux. C'est aussi une manière à la fois de montrer aux gens qu'il y a une progression dans la puissance, mais aussi qu'il y a une progression dans la découverte du jeu. C'est-à-dire qu'on vient d'expliquer quand même énormément de choses, genre les jumps, les dashs, les coups, le fait de rattraper au sol après une projection. Enfin, il y a énormément de choses. Et donc, pour... Peut-être, on ne sait pas exactement, soit c'est pour le show, dire « Ah là là, on va débloquer un nouveau niveau de puissance en le laissant faire des coups spéciaux », soit c'est pour tout simplement dire « Bah voilà, commence par déjà réussir à sauter normalement et à découvrir que tu peux sauter comme un fou à l'autre bout de l'écran avant de vouloir commencer à faire des Hadouken ». Tu vois, c'est un peu gamin, calme-toi, parce que là, il y a une nouvelle donne, tu vois, il faudrait peut-être commencer par faire la base, sauter, avancer, peut-être donner un ou deux coups normaux et puis ensuite tu pourras commencer à faire des coups spéciaux. Quoi.
Prendre le temps d'appréhender le gameplay
peut-être
déjà de base.
Très rapidement, on va dire. Quoi.
D'accord.
Voilà, très rapidement.
Mais ça veut dire également, donc on explique qu'il y a trois niveaux de barres, je vais donner les autres, mais ça veut dire que grosso modo, chaque personnage se joue différemment suivant qu'il a 0, 1, 2 ou 3 niveaux. Et ça change complètement en fait, le gameplay de certains personnages. Certains personnages en coups spéciaux se jouent vraiment différemment que dès que vous allez les avoir. Donc le niveau 2 qui est symbolisé par la couleur orange...
Juste pour le niveau 1, parce que c'est pas fini, c'est aussi un niveau qui te permet d'utiliser certaines techniques avancées, par exemple le Tech Hit. Donc c'est le fait qu'un personnage... Donc, c'est ce qu'on a vu apparaître dans Super Street Fighter 2, c'était la D-Shop. La D-Shop, ça veut dire que quand quelqu'un essaie de t'attraper pour te projeter, si t'as appuyé toi-même pour faire la projection, tu peux te libérer.
Et ça, c'est nouveau
C'était déjà dans Super Street Fighter 2.
D'accord. Sauf que dans Street Fighter 2, ça faisait descendre le dégât
Ça baissait les dégâts. Alors ici, c'est un peu plus compliqué. Donc déjà, ça te consomme un peu de ta barre, ta jauge, de faire la technique. Tu n'as pas forcément accès si tu n'as pas assez d'énergie en stock. Et en fonction du personnage, ça peut avoir trois effets différents. Soit tu déchopes, hop, essayer d'attraper, bah, tu te détrapes. Soit tu as été projeté, mais tu te rétablis en l'air, tu n'as pas de dégâts. Soit... tu contre-chopes. Le gars qui t'a chopé, bah c'est lui qui va se prendre la chope.
Ah oui, c'est pas mal ça.
Donc ça, en fonction du personnage, ça rajoute des possibilités originales qu'on n'avait pas vues encore dans Street Fighter, dans Darksiders non plus.
Et non, et donc c'est, comme tu le dis, c'est pas gratuit. Ça, c'est important.
Oui, c'est pas gratuit. C'est une technique avancée de jeu. Donc, et pour ça, il faut avoir son niveau 1 de jauge, il faut avoir un peu d'énergie. Après, je te laisse reprendre sur le niveau 2.
Donc le niveau 2, qui est donc la couleur orange, donne accès à ce qu'on appelle les X-Ability. Alors les X-Ability, Well Cook, je te laisse...
Les pouvoirs X, les compétences X, les capacités X. Donc les X-Ability, en fait, c'est des compétences que les personnages peuvent utiliser, qui sont spécifiques à chaque personnage, qui consomment donc, de la jauge pour être exécutées. Après, c'est des compétences...
Elles consomment entre 30 et 50% de la barre.
Voilà, en fonction de la compétence et du personnage. Et ce n'est pas forcément des attaques ou des super attaques. Non. Ça peut être des compétences spéciales. Ça peut être Psylocke qui fait des illusions et qui a son personnage caché parmi les illusions.
Ce qui est génial pour ce personnage-là, c'est que suivant le bouton avec lequel vous déclenchez cette compétence, parce que ce n'est pas,
c'est un personnage
c'est pas au hasard. C'est vous qui choisissez quel est le personnage.
Alors, je ne vais pas rentrer trop dans le détail dans X-Ability parce qu'on va parler des personnages, parce que chacun a un pouvoir spécifique. Mais voilà. C'est une compétence propre à chaque personnage, une manip à peu près universelle, quart de cercle arrière, 3 pieds ou 3 points. Et voilà, donc chaque personnage a une compétence comme ça qui se débloque avec l'accès au niveau 2 qui peut avoir une influence très importante sur le gameplay du personnage.
Et le truc, c'est que vraiment, il faut bien se dire, c'est que c'est un changement d'état, mais un changement d'état volontaire. Tu vois, d'habitude, en changement d'état, dans les jeux de baston, soit t'étais actif, soit t'étais au sol, soit t'étais en l'air, soit tu étais stun. Mais rarement, en fait, volontairement, tout d'un coup, tu décidais que ton personnage allait se jouer différemment. Tu vois, que tu allais vraiment dire, bah voilà, je joue Psylocke, je suis en train d'envoyer des projectiles comme n'importe quel Ryu style du jeu, tu vois. Et tout d'un coup, je déclenche quelque chose, il y a 6 Psylocke sur l'écran et je suis l'un de ces illusions et en gros bah l'adversaire maintenant il sait plus où je suis et selon le bouton bah voilà je suis l'un des 6 mais je peux alterner et tous les persos ont un truc comme ça tu vois genre comment il s'appelle le gros en métal là
Colossus
non mais par exemple pour donner une autre idée Colossus ouais on va en parler mais Colossus par exemple tu vois il est en autogarde c'est à dire qu'il peut encaisser un coup. Tu vois, et c'est que du changement d'état, mais volontaire et bénéficiaire. Alors que d'habitude, les changements d'état, ils n'étaient pas pour le joueur, ils étaient contre lui, en fait. Et ça, c'est vachement important aussi à préciser, c'est que, pour le coup, c'est choisi et c'est bénéfique, en fait.
Ensuite, on a le niveau 3, donc, qui est symbolisé par une couleur violette changeante. Là, elle brille, le personnage est à fond, la barre est à fond. Et là, ça correspond tout simplement au super coup du jeu. Hein. Là, c'est
grâce à ça que Cyclope sait balancer un Kamehameha.
Voilà.
Typiquement. Donc voilà, c'est le super coup spécial, il y en a un seul par personnage. Et c'est des coups qui peuvent remplir tous les écrans et qui sont souvent hyper violents. Et puis vous avez un gros X qui apparaît à l'écran pour vous dire HyperX.
Qui retire tout autre élément en dehors du background et des personnages. Donc, c'est vraiment le X qui prend toute la place.
Mais il est très furtif. Hein,
d'ailleurs, ce qui est assez rigolo, c'est que cette présentation-là a été reprise dans Super Street Fighter 2 X Revival, qui est sorti sur Game Boy Advance, puisque lorsqu'on lançait le super coup, ça faisait exactement la même chose. On avait le X du 2X qui apparaissait et on ne voyait plus les autres éléments. Petit clin d'œil. Juste pour terminer là-dessus, ça veut dire qu'avec cette barre qui donc propose 3 niveaux, comme on l'exprimait tout à l'heure, on a vraiment 3 manières de jouer différents un personnage. Et il y a des personnages qui sont plus intéressants à jouer avec leur X-Ability qu'avec leur Hyper-X et vice-versa. Il y a des personnages qui vaut mieux en fait garder la super attaque et la lancer au dernier moment plutôt que de jouer sur l'habilité. Donc c'est assez intéressant et c'est vraiment caractère spécifique.
D'accord. Par contre, une petite précision, en fait, j'aimerais savoir, c'est que, parce que je suis pas sûre de bien comprendre, quand t'es premier niveau, donc bleu, après orange, ou je sais plus, puis après violet, après, quand t'es au niveau violet, par exemple, tu peux faire tout ce que tu veux au niveau, justement, de tes supers, ou...
Alors non, en fait, quand tu utilises une capacité, un pouvoir, donc ça peut être le tech kit quand t'es en niveau 1, ça peut être l'ability quand t'es en niveau 2, en niveau 3, tu peux faire l'ability aussi, hein, mais à chaque D'accord. fois, ça va te consommer de ta jauge. Donc une fois que tu as utilisé ton pouvoir, il faut que tu la remplisses de nouveau pour pouvoir les utiliser. Pas depuis le début, ouais. Ça la vide jamais entièrement, D'accord. mais il faut que tu la re-remplisses pour atteindre le niveau qui te permet d'utiliser les pouvoirs.
D'accord.
Et il faut aussi dire que cette jauge, pour la remplir, il faut bourrer ou se faire bourrer.
Oui, alors il vaut mieux taper que se faire taper, mais effectivement, quand on prend des coups, elle se remplit aussi. Donc ça veut dire qu'il y a, on est, c'est pas Street Fighter 4, c'est pas de l'ultra, mais disons que la barre se remplit assez vite, ouais, surtout les premiers niveaux.
C'est pas un Art of Fighting où tu te sens démuni quand t'as pas de barre et que tu galères pour la remplir. C'est vraiment un jeu où voilà, il y a cette contrainte là, mais c'est pas quelque chose de frustrant parce que tu sais que tu vas les récupérer tes pouvoirs assez vite.
Mais par contre,
sauf si tu te prends un film.
Il faut pas rester inactif. C'est-à-dire que si votre personnage campe, on parlait tout à l'heure du fait que ce jeu est offensif. Si votre personnage campe, la barre n'avance pas du tout. Et clairement, il vaut mieux pas se retrouver avec une barre vide de X Power face à un personnage qui a sa barre remplie. Là, ça, parce que vraiment, les capacités... Le jeu est assez bien équilibré dans le sens où les capacités de chacun des personnages amènent vraiment quelque chose d'important dans le gameplay même du personnage. Mais un personnage qui a une barre vide, du coup, n'a plus aucune compétence face à un personnage qui va toutes les avoir.
Il n'a plus de compétences défensives. Exactement. C'est surtout ça qui est super impressionnant. C'est que, imagine, tu n'as plus de barre. Mm-hmm. Le type, il arrive, il veut, j'en sais rien, te cogner ou autre. Il va
te saisir, tout simplement.
Et il arrive et il te projette. Et bah, tu ne peux pas sortir de ça. Et comme on l'expliquait tout à l'heure, tu peux attaquer un type qui est au sol après l'avoir projeté. Bah, c'est fini. Tu vois, c'est vraiment...
Donc ça pousse au dynamisme, en fait, finalement.
C'est ça. Et... Bah, le truc, c'est qu'en gros, l'attaque est reine, vraiment. Et s'il y a bien des options défensives, ces options défensives, en fait, doivent coûter quelque chose parce que sinon, les joueurs en profiteraient trop et on n'aurait pas, en fait, d'équilibrage entre l'attaque et la défense.
Bah, pour d'ailleurs enchaîner là-dessus, oui. C'est là qu'on voit que le jeu est vraiment offensif. Si jamais vous enchaînez les draw games, ce qui est vachement difficile dans le jeu, je vous dis tout de suite, les
matchs nuls.
Oui,
le dernier round proposé en fait est un système de mort subite, c'est-à-dire que le premier qui tape a gagné. Donc c'est vraiment un jeu qui est offensif.
Ils ont compris depuis Street Fighter 2 que les matchs à rallonge ça rapportait pas d'argent.
Bah, ils l'avaient déjà compris à partir de Super Street Fighter 2.
C'est vrai.
Mais en parlant d'équilibrage, on peut passer un peu justement aux différents personnages et.
Mais avec plaisir.
Je t'en prie alors.
On attendait que ça, n'est-ce pas, Nathan?
Ouais, vas-y.
Vas-y, Wellcook.
Bon, TMDJC, on commence par qui?
Ah non, vas-y, je te laisse te faire plaisir. Là,
ah bah, si tu me laisses me faire plaisir, on va commencer par Psylocke. On a déjà parlé de Psylocke, donc on va aller très vite. Psylocke, c'est qui? C'est une ninja asiatique qui à la base était d'origine anglaise, mais qui est morte, qui a été ressuscitée par les ninjas de la main dans le corps d'une asiatique, donc qui est devenue asiatique bonasse. Non, on s'en branle pas.
Juste une remarque, parce qu'on l'a pas précisé. C'est un jeu où il y a 6 gentils, 6 méchants.
6 gentils, 6 méchants.
Mais il y a que 10 personnages jouables. C'est-à-dire qu'il y a 2 boss, en fait, qui sont les méchants qu'on ne peut pas jouer dans le jeu.
Voilà, mais il y a beaucoup de commentaires à faire sur le choix du casting. Psylocke, c'est normal qu'elle soit là. À l'époque, c'est le personnage féminin d'X-Men le plus charismatique. Mm-hmm. Clairement, bah, c'est une bonasse, quoi, avec des gros seins, et c'est un ninja, et puis elle est asiatique. À l'époque, c'était pas courant dans la bite américaine.
Et le sprite est juste magnifique.
Elle a une tenue méga sexy en maillot de bain bleu. Elle a des cheveux violets aussi, c'est méga
ninja,
sexy.
Ninja, logique, tu vois, ouais.
À la base, donc, c'est une mutante télépathe assez basique, pas très puissante à la base, mais elle a une faculté, c'est qu'elle peut concentrer ses pouvoirs dans une dague psionique, donc en fait, c'est une petite aura rose qui apparaît au bout de sa main, et qu'elle peut utiliser donc pour attaquer l'adversaire. Donc c'est pour ça que quand l'attaque, vous la voyez souvent, sa portée, son allonge qui augmente grâce à cette dague qui apparaît mystérieusement.
Oui, une dague rose, pratique pour une ninja.
Mais oui, parce que c'est une ninja fille.
Mais tu sais que les ninjas
c'est
de la main...
pour s'infiltrer la nuit ou ce genre de choses, c'est vachement bien. Jamais.
Elle a été formée par les ninjas de la main. Les ninjas de la main, de base, ils s'habillent en violet. Je crois que ça a changé depuis.
Les ninjas de la main, les mecs, ils t'éduquent à coups de baffe. Tu sais, ils ont la main rouge à la main.
Rose.
C'est pour ça, rose, rouge, voilà. D'accord. Et dans les tons, en fait.
Et c'est un personnage qui, à certains moments, a été très proche de Wolverine quand l'X-Men s'était retrouvé divisé et mort. Voilà, donc sinon, qu'est-ce que c'est? C'est un personnage, c'est un peu la Chun-Li du jeu.
Oui.
Ah.
Vas-y, dis-nous, TMDJC.
Bah oui, sinon, c'est un peu la Chun-Li du jeu, elle se joue pas du tout pareil, mais c'est
Donc rien à voir, mais c'est un peu ça. Okay.
C'est-à-dire que c'est la genie du jeu dans le sens où c'est vraiment le personnage féminin qui est mis en avant. Et même si ses attributs sont mis en avant, ça reste un personnage qui est quand même relativement habillé. On n'est pas dans du Camille, en fait.
Relativement habillé, si tu veux. À différence de Camille, elle a un maillot de bain et des bandeaux autour des gens.
Voilà.
Non, mais elle est forte dans le jeu, je sais pas, par rapport
alors,
au personnage.
Elle est assez particulière parce que c'est un personnage de base qui se joue quand même beaucoup au corps à corps. Avec une portée de coups assez courte et des coups très rapides. Ses coups forts ont une assez bonne allonge malgré tout.
Oui.
Ses coups spéciaux, elle a un dragon qui sert à rien.
Oui, alors là, oui, il est pourreux possible. Par contre, effectivement, c'est un shoto dans le sens où elle a aussi des.
Elle a aussi un projectile.
Des projectiles qui sont relativement courts, mais par contre, qui peuvent être lancés à des.
Qui sont courts et lents, donc pas très utilisables en tant que projectiles à distance, mais qui marchent très bien en combo au corps à corps.
Voilà,
en fait.
Le but du jeu.
Ou poursuivre l'adversaire, comme je disais tout à l'heure. L'adversaire, on peut le mettre à sol, on peut l'envoyer en l'air. Mm. On peut utiliser le projectile pour le toucher quand on l'envoie dans chacune de ses directions.
Le projectile sert plus, en fait, à bloquer l'adversaire. Il sert plus à bloquer l'adversaire, en fait, que vraiment de projectile. C'est pas un projectile qui sert à comboter dans le sens je te bloque et j'enchaîne les coups, c'est je te mets dans un coin par exemple où je t'empêche de sauter ou parce que moi je vais continuer à te bourrer avec mes combos.
Il y a un truc aussi dont on a oublié de parler tout à l'heure quand on parlait du gameplay général, mais c'est le début des ce qu'ils appellent des Magic Series. En fait, les Magic Series, c'est quoi ? C'est qu'à partir de Vampire numéro 2, si je me souviens bien, tu pouvais faire ce qu'on appelle des chain combos, c'est-à-dire que les coups s'enchaînent par ordre de puissance. C'est-à-dire que tu fais faible, moyen, fort. Tu n'es pas obligé d'attendre la fin du faible pour faire le moyen, etc. etc. Et en fait, dans X-Men, certains personnages commencent à avoir en fait, ce début de système d'enchaînement. Et Psylocke, c'est le perso qui peut enchaîner dans quasiment... toutes les possibilités. Ce qu'on appelait les Magic Series, en fait, c'est que toutes de faibles à forts. Il y en avait certaines qui étaient spécifiques, genre c'était tel bouton, puis tel bouton seulement. Ou alors tous les boutons, mais seulement les poings. Ou alors seulement les pieds. Ou alors en faisant des zigzags. Enfin,
Par exemple, voilà. Wolverine peut enchaîner point faible, pied moyen, point fort. Concrètement, en fait, donc ça c'est les caractères spécifiques, c'est exactement pas du coup, enfin c'est pas les prémices de ce qu'il va y avoir dans Hunter, mais ça vient de Vampire, on en a parlé lors du podcast numéro 11, où il y avait déjà effectivement cette amorce de vouloir donner plus de liberté aux joueurs. On proposait plus des links, on proposait en fait que les coups justement puissent s'enchaîner sans attendre le pixel du moment où il fallait appuyer sur le bouton.
Voilà, donc c'est un personnage agressif au corps à corps. On a déjà parlé de sa capacité X, donc c'est le fait qu'elle puisse créer un double. Donc vous voyez 6 Psylocke à l'écran, en fait, qui bougent tout ensemble. Et il y en a une des 6, c'est la vraie, c'est celle qui va vous taper quand elle vient vous attaquer. Donc ça perturbe vachement l'adversaire de savoir quel est le personnage dans le tas qui attaque et qui touche.
Voir la première fois que vous le lancez, ça vous perturbe vous-même parce qu'il faut. Les premières fois, il faut piger laquelle vous êtes. Hein.
Voilà, parce que. On définit celle qu'on est avec le bouton qu'on utilise, mais si on ne sait pas comment ça marche, c'est très vite confus. Mmh. Et son super pouvoir, c'est une vrille où elle fonce vers l'adversaire qui est intéressante, qui rigole parce qu'au milieu, elle a un temps mort et elle peut repartir dans une autre direction avec son attaque. Donc ça lui permet de poursuivre l'adversaire et parfois de faire des surprises au moment de le poursuivre qui sont assez rigolores. Mais bon, c'est essentiellement un personnage...
Pouvoir rectifier si jamais en plus vous avez loupé l'adversaire et qu'il s'est envolé.
Bon, c'est essentiellement un personnage de corps à corps. Moi, je pense que c'est pas un personnage très fort. Mais bon, on va pas parler de Tierlist là parce que je ne saurais pas quoi en dire.
Ensuite, vous allez...
On peut parler de l'autre personnage féminin qui est tout aussi emblématique, Storm, Tornade en français. Donc, je sais pas d'ailleurs, ça existe toujours les noms français dans les comic books ou pas ?
Je crois pas, non.
c'est une bonne question. Je crois que personne ici les lit en VF, donc c'est problématique. Donc Storm, c'est un personnage important parce qu'il a été un des leaders des X-Men assez régulièrement, chef d'équipe. Donc son pouvoir, c'est quoi ? C'est elle manipule les éléments. Elle peut fourrer de la foudre, des nuages, du soleil. Météorologique. Elle contrôle le temps. Le climat.
Mm-hmm. Clairement, dans le jeu, c'est clairement le vent et l'électricité.
Qu'ils utilisent fondamentalement. Donc, c'est un personnage qui occupe beaucoup l'espace, beaucoup de mobilité. C'est le personnage du jeu qui peut voler. Donc, ça se fait quart de cercle, arrière, trois pieds. Et le personnage s'envole directement. Et vous pouvez le déplacer en l'air. Ou vous pouvez le faire quand il est déjà en l'air. C'est-à-dire que l'adversaire croit que vous allez tomber. Non. Vous faites de la manip et vous pouvez voler autour de l'écran. Et autour de l'écran, vous avez accès à la plupart de vos attaques. D'ailleurs, dans ce jeu, on ne l'a pas dit, mais la plupart des coups spéciaux peuvent se faire aussi en l'air. Du coup, ce qui fait que quand on est en l'air, on peut prendre l'adversaire par surprise et on n'est pas démuni. On peut garder aussi, on a oublié de le dire, ce qui est très important. Donc, le jeu aérien est fondamental. Et Storm, dans ce jeu, en termes de jeu aérien, elle est très très forte. Elle domine l'espace comme peu d'autres personnages savent le faire dans ce jeu-là.
Alors, le fait qu'elle puisse voler, là encore, est aussi déstabilisant les premières fois pour l'adversaire que pour soi quand on commence à comprendre le principe, parce qu'on peut, on n'est pas juste bloqué en l'air, on peut se déplacer en plus avec, avec elle. Et c'est les premières fois qu'on joue avec elle, il y a quelque chose de totalement déroutant parce que les coups qu'elle utilise en l'air sont évidemment pas les mêmes que ceux qui sont utilisés au sol. Donc on se retrouve avec deux gameplays qui sont vraiment différents. Et par contre, une fois qu'on a compris le principe, comme tu le disais, Wellcook, ça devient un personnage en l'air qui est juste ultra puissante.
Et puis même, elle avait des techniques qui sont encore utilisés en fait, même qui vont donner naissance en fait à tout au gameplay, on va dire marvelesque, comme on dit, ce qu'on appelle le tree jump. C'est le fait tout simplement de, comme elle peut aller, tu sais, dans 8 directions, donc haut, bas, gauche, droite et puis les diagonales, et ben le personnage va pouvoir par exemple sauter verticalement. Et puis, tu fais la diagonale bas avant et tu appuies sur deux boutons pour dasher, et ben tout d'un coup, tu as fait, tu sais, un jump, un saut en forme de triangle. Et pendant que tu es en train de redescendre dans cette courbe de triangle comme ça, et bah tu peux donner un coup qui, alors que tu auras du sol, va être un coup considéré comme en l'air. Donc tu vois, déjà on a un prémisse d'un truc qui va devenir essentiel vraiment dans le gameplay de Marvel ensuite pour les persos aériens.
La série Versus plus exactement.
Voilà, la série Versus, bah, c'est la base en fait du jeu aérien, enfin du jeu air to air to ground en fait, du désert vers le sol, où qui est dominé, on va dire, par les personnages en fait qui peuvent s'échapper, parce que en faisant ça, Storm, on a oublié de le préciser, mais elle peut voler avec son pouvoir, mais même sans son pouvoir, si tu restes appuyé vers le haut, elle descend moins vite, elle flotte un petit peu comme ça, et tu peux aller gauche droite comme avec tous les personnages.
Et tu peux le faire au dernier moment, ce voilà. Qui fait que tu peux surprendre l'adversaire qui lance par exemple un projectile en se disant c'est bon, là je vais l'avoir à ce moment-là. Effectivement, non, parce que j'ai raterri plus doucement.
Et certains de ses coups, en plus, ont une forme d'élan qui fait qu'elle va remonter ou redescendre ou avancer ou reculer. Résultat, le personnage, c'est insaisissable. Tu peux pas en fait te prévoir quelque chose à partir du moment où il est en l'air.
Et ça, c'est un personnage qui est dur à
mais choper. Ça lui donne un certain avantage, alors évidemment, sur d'autres personnages.
Ah, totalement. Oui. C'est on peut dire que globalement, les personnages aériens dans la série des Versus de Capcom ont toujours eu ou presque l'avantage. Quoi. C'est parce que ils contrôlent plus d'espace, hein, tout simplement. Tu vois, on parlait tout à l'heure de Street Fighter 2 en disant le but c'était au sol de contrôler l'espace entre les deux. Ouais. Là, en fait, les personnages qui peuvent voler, qui peuvent influer sur l'arc en fait de la courbe de leur saut, remonter, redescendre comme ça, c'est ceux qui vont en fait prendre un peu l'ascendant, ouais. Pas forcément dans ce jeu-là, mais dans la série en général, et qui vont beaucoup en fait influencer la série également.
Quoi. Concrètement, dans Street Fighter 2, en fait, on avait une gestion de l'espace qui était clairement horizontale, alors que là, la gestion est clairement verticale. En fait, on a le point de vue du gameplay est complètement inversé.
Voilà, et c'est un personnage qui occupe l'espace par ses déplacements, par ses coups, mais elle a aussi des coups spéciaux qui ont une assez bonne portée, une assez bonne distance, elle a des projectiles, donc en fait, elle peut vraiment tout faire. Il n'y a aucune limite à la manière dont elle peut occuper. Non. Elle a pas besoin de dragon, en fait, parce qu'elle occupe tous les espaces.
Non, du coup, c'est-à-dire que comme elle est au-dessus tout le temps, oui, le dragon lui sert à rien, personne lui saute dessus.
Voilà, elle a pas besoin de dragon, donc elle est vraiment fort. Je me souviens plus quel est son pouvoir.
C'est une méga furie. En fait,
ça avec sa ability, hein, je parle pas de la hyper.
C'est de voler.
C'est de voler, en fait. C'est de voler. C'est pas le flottement, c'est le fait de voler vraiment.
C'est le fait de voler, donc ça avec sa ability. Effectivement, ça super, c'est là, en fait, elle balance de la foudre tout autour d'elle, qui touche à peu près les 70% de l'écran, 75%.
Ouais, enfin, disons que quand vous le faites au sol, ça touche 100% de l'écran presque, mais le...
Voilà, donc c'est un truc qui part dans tous les sens, qui occupe tout l'espace, donc...
Oui, pour l'éviter, c'est un peu compliqué.
Faut le garder, t'as pas beaucoup de choix, si t'as pas mis ta garde, t'es mal barré, tu te prends tout. Donc c'est un personnage qui est quand même super violent, je pense que là-dessus, on sera tous d'accord. Après, bon, si on va faire le tour des personnages héros masculins, vite fait...
Excuse-moi, du coup, il y a une autre femme ou
non,
pas
c'est
chez les méchants, si.
Enfin, oui, si t'appelles ça une femme.
Oui, enfin bon.
on va finir les gentils, on attaquera les méchants après.
D'accord, on fait comme ça, vas-y.
Colossus, donc le personnage qui est pas toujours très apprécié.
Non, mais qui pourtant, en fait, une fois maîtrisé, c'est pareil, hein, c'est un personnage qui est très intéressant à jouer.
Colossus, juste pour rappeler, c'est un grand russe qui se transforme en armure métallique et qui, du coup, est très fort. Et qu'est-ce qu'on attend de lui ? Que ce soit un personnage qui fait pour taper fort. Et quand il tape, effectivement, dans le jeu, il fait très
mal. Et puis, rappelons aussi que c'est quand même un des rares chopeurs du jeu. Et que quand il chope...
Les russes, ils chopent, tout est logique et normal. C'est pas du tout le Zangief du jeu.
Aucun clin d'œil à Street Fighter par là. Là, clairement, en fait, ces chopes font super mal.
Sachant que de base, ça n'a jamais été un catcheur. Mais bon, ça c'est... Sur le jeu, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur la mise en œuvre des pouvoirs.
Un truc qui est étonnant avec Colossus, c'est que... Enfin, il a des chopes, mais ce n'est pas des chopes, en fait. C'est-à-dire que tu peux les garder. Quand tu fais en fait sa chope avec Colossus, c'est pas un 360 comme Zangief dans Street Fighter, tu vois, c'est plus facile, c'est quart de cercle vers l'avant. Et là, il avance comme ça, c'est comme s'ils allaient, comme s'ils sautaient tel un joueur de tennis courant après la balle, tu vois. Et si tu gardes, il t'attrape pas et tu peux le punir. Donc en gros, c'est assez situationnel en fait. C'est quelque chose de
On verra pas derrière d'ailleurs, parce que ça c'est quelque chose qui sera modifié.
Parce que ça sert à rien en fait, globalement.
C'est ce que j'allais dire, oui, du coup, je n'avais pas trop l'intérêt.
Bah, il n'y en a pas, voilà, t'as compris.
C'est d'ailleurs pour ça que le personnage est mal classé. On a dit qu'on parlait pas de tier list, mais c'est un de ses gros défauts, c'est que le principal avantage du personnage peut être bloqué par n'importe quel autre personnage. Donc c'est vrai que
c'est un personnage qui est malgré tout assez lent.
Oui,
ce qui dans ce jeu...
En général, bourrin, lent.
Oui, c'est souvent le cas. Mais là, ça pénalise énormément sur un jeu comme X-Men, qui est créatif, vitesse. Son super pouvoir, qui est très pénible, c'est l'invulnérabilité. Donc, grosso modo, il se met à clignoter. Et en fait, quand vous le tapez dedans, il sent pas le coup. Enfin, il prend les dégâts, mais il sent pas le coup. Ça lui met pas en fait de hitstun, enfin ça le paralyse pas. S'il est en train de vous taper et que vous le tapez dedans, vous pouvez le toucher, mais lui continuera à vous taper.
Et comme vous êtes bloqué par votre propre hitstun, il prend forcément l'ascendant. C'est pour ça que le X-Ability est bien plus intéressant chez lui que sa super attaque, finalement.
Qui est,
oui.
Rappelons-en. Ouais, c'est ça.
En gros, il saute et puis il redescend la tête la première et voilà.
Qui est super lente en plus. Donc on voit vraiment venir.
Donc il sert à rien.
C'est pas le personnage le plus réussi du cast. Hein.
Oui, on vous dit que Colossus est un catcheur. Ne vous retournez pas dans votre tombe, les fans. On n'a pas fini. Bon, après, on va passer au leader incontesté des X-Men, Cyclops en anglais. Donc Cyclops, c'est un personnage qui est très original aussi dans le jeu, parce qu'en fait, c'est un personnage basé sur les projectiles, mais certains de ses coups de base sont des projectiles.
Ah, ça, c'est ouf. T'appuies sur un bouton et là, il y a un Hadouken.
Point fort.
T'imagines un peu, genre, t'appuies sur un bouton, il y a un Hadouken. Non mais allô, t'es en 94, quoi. Il y a un Hadouken quand t'appuies sur un bouton. Voilà, enfin, je veux dire, début, ça choque un peu quand même.
Ça choque même beaucoup, je pense.
Ce qui est hallucinant, c'est que même son dragon finit par un Hadouken.
Oui, c'est vrai, oui. En fait, il fait, tu vois, Shoryuken, comme ça.
Il en enchaîne plein, c'est 7 avant l'heure.
Il fait clac, 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 comme ça. C'est ça. Et puis à la fin, il se dit, tiens, vas-y, puisque je t'ai envoyé en l'air, poup, il en rajoute une petite et tu te prends un projectile à la fin du dragon.
Donc, c'est le Ryu du jeu, comme tu as compris.
D'accord, effectivement.
Oui, donc, parce qu'il a une sorte de Tatsu, même si c'en est pas un.
Voilà, c'est la même manip et c'est un effet assez proche. Donc, voilà, donc grosso modo, un personnage qui est fait pour les attaques à distance. Ses coups spéciaux, c'est aussi des projectiles.
Sauf que c'est des projectiles qui n'ont pas de début, pas de fin. C'est-à-dire que c'est pas un projectile qui est envoyé, mais c'est vraiment un faisceau laser.
C'est un rayon laser, même, carrément.
Et donc, vous avez donc trois niveaux, on l'expliquait tout à l'heure. Hein. On attaque les jambes, on attaque le torse et on attaque la diagonale. Donc, c'est vraiment un personnage qui est fait pour complètement... En fait, j'ai envie de dire, c'est presque un anti-storm, dans le sens où le but du jeu va être de pouvoir contrecarrer les personnages qui sont au-dessus de lui. Et comme il a un dragon, il faut pas lui sauter dessus.
Voilà. Le problème, c'est que c'est comme il disait, c'est un rayon laser. Donc, c'est un instant très bref où, certes, ça occupe toute la ligne, mais il ne faut pas rater l'instant où tu vas toucher l'adversaire.
Oui, parce
donc,
que malheureusement, le délai de rétractation est relativement long.
Il faut être vachement précis parce que sinon, tu t'exposes très facilement.
D'accord, derrière, tu te fais taper facilement.
Et il y a un truc important qui arrive en fait avec ce personnage. Je ne sais pas si on peut vraiment le qualifier comme ça, mais jusqu'ici, si tu connais un peu Street Fighter, tu te dis les projectiles, c'est des boules, c'est-à-dire qu'en gros, elles partent de ton personnage et elles avancent dans l'écran. Et en fait, quand elles sont, par exemple, à droite de l'écran, elles tapent plus à gauche. Et quand elles sont à gauche, elles tapent plus à droite. Tu vois, c'est logique. En fait, avec Cyclope, il y a ce qu'on appelle, c'est l'arrivée du beam. En fait. Et le beam, c'est quelque chose qui est très très important aussi dans les séries Versus ensuite.
Le beam qui vient du nom de son attaque.
Voilà, donc Optic Blast, Mega Optic Blast, Control Beam, etc. Et le truc, c'est que c'est une boule qui finalement... touche partout en fait sur la ligne dans laquelle elle frappe, mais qui finalement en fait ne te sert pas à contrôler la distance après son lancement. C'est-à-dire que c'est une boule instantanée qui frappe sur toute la ligne, mais finalement tu vas pas faire comme dans Street Fighter où tu envoies un Sonic Boom et tu marches derrière en te disant je suis tranquille. C'est de l'instantanéité. Et mine de rien, c'est très important que ce soit arrivé dans Marvel parce que comme c'est un jeu où on parlait d'instantanéité, de choses comme ça, et ça va rester aussi et ça va être une composante essentielle de l'histoire en fait de la série Versus.
Le mot que tu cherches, c'est rayon.
Un rayon laser, merci.
Oui.
Bim, c'est rayon.
Bim. Donc voilà, et ça, le début des bims aussi, c'est quand même quelque chose des rayons comme ça. C'est quelque chose de très important dans, je me souviens avoir lu un article comme ça sur d'un compétiteur américain qui disait le jour où les beams sont arrivés dans le jeu de combat, en fait, avec les jeux X-Men, c'était une révolution. Parce que au lieu de.
Article que vous pouvez retrouver sur Shoryuken. D'ailleurs.
Voilà. T'envoies un projectile et il touche à l'autre bout de l'écran instantanément. C'était de la folie, si tu veux, quand c'est arrivé ce premier truc-là. Quoi.
Mais quand je vous dis que les premières fois qu'on a mis les doigts sur la borne, on était ouf, je plaisante pas, c'est que le jeu était d'une richesse. On avait l'impression que c'était un puits sans fond.
Pour les auditeurs tatillons, il me semble que BIN, ça veut dire faisceau par rayon.
Merci pour cette précision.
Donc voilà, alors je me souviens plus de quelle est son X-Ability non plus, j'ai un trou de mémoire.
Alors son X-Ability, c'est une shop spéciale assez forte qui permet ensuite d'enchaîner sur un gros combo, si je me souviens bien. Enfin, incroyable.
C'est pas gratuit, hein. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait la shop, le combo, il faut le faire. Donc, c'est...
Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est son Hyper X, parce que tu sais, il a le Mega Kamehameha, mais il a surtout le Control BIM.
Dans la traduction française, c'est Mega Amea.
Mega Amea, oh merde. Donc non, ce qui est intéressant surtout, c'est le contrôle beam. Le contrôle beam, en gros, c'est tu fais en fait un faisceau laser, si tu veux, mais tu le fais dans le sens que tu veux. C'est-à-dire que tu lances c'est comme si tu lançais un Hadoken et que tu disais maintenant que je t'ai lancé, j'aimerais bien que tu partes à la verticale. Eh ben c'est parti, tu vois, il part toujours de toi, tu vois, ça reste un beam, donc instantané et qui est partout à la fois. Mais en gros, si tu as frappé un mec avec le dragon et que tu veux par exemple l'enchaîner et qu'il est dans l'angle supérieur droit, eh ben tu lances le contrôle beam dans l'angle supérieur droit. Et si tu vois qu'il est en train de descendre plus vite que tu le pensais, eh ben t'appuies juste à droite et tu vas recaler le beam et c'est une furie où tu contrôles en fait ta super attaque, quoi, ton super projectile.
Chose qu'on retrouvera bien plus tard, évidemment, toujours dans la même série.
Je dirais juste que dans le comic book, normalement, il est censé enlever sa visière de quartz ruby pour réussir à faire ça.
Ouais.
Allez, alors, nous allons passer au personnage le moins charismatique du jeu et le moins charismatique tout le court chez les X-Men. Ouais. Ah si, je parle d'Iceman.
Ah, bah,
Iceberg
en
français.
Okay.
Il faut pas déconner.
J'ai eu peur.
Iceman, alors qu'est-ce qu'on peut dire sur Iceman? Moi, j'ai envie de dire pas grand-chose, donc c'est un personnage... On s'en fout, on peut dire ça.
Bon bah vas-y vite.
C'est un personnage qui en fait contrôle la glace et peut se transformer en glace. On le découvre, on l'a découvert en fait à peu près à ce moment-là dans le comic book, qu'il pouvait se changer intégralement en glace et devenir invulnérable comme ça. Donc Iceman, qu'est-ce qu'il a de bien? C'est un personnage essentiellement à base de projectiles aussi. Il matérialise de la glace en fait, qu'il peut jeter sur l'adversaire ou faire apparaître au niveau de l'adversaire.
En fait, il a un gameplay de base qui est relativement proche de celui de Cyclope dont on parlait tout à l'heure, mais ses coups de base étant différents. Le personnage se joue vraiment différemment, puis surtout il est plus lent. On va dire que c'est plus un personnage de zoning finalement que Cyclope, qui est vraiment un personnage de faisceau finalement.
Alors il y a un truc très spécifique chez Iceman qui est important, c'est que quand il se protège des coups spéciaux, il ne se fait pas gratter. Ça veut dire qu'il est en garde, il se prend par exemple un projectile, il perdra pas de vie, alors que normalement un personnage perd de la vie quand il se prend un coup spécial dans la garde.
D'accord.
Ça c'est une modification très importante, parce que quand vous jouez la première fois, je pense particulièrement contre l'intelligence artificielle qui campe énormément avec ce personnage là, vous mettez énormément de temps à le tuer, voire lui il met 2-3 combos derrière et c'est lui qui vous tue, alors que ça fait une demi-heure que vous lui tapez dessus.
Donc c'est pas un personnage très offensif en fait.
Non.
Il est vraiment
c'est un personnage actif, mais si tu veux de parce que tous les personnages en fait par définition dans X-Men, comme on le disait, sont des personnages actifs. Il y a pas de personnage passif vraiment, tu vois. Mais là par contre
c'est vrai qu'il joue plus sur la défense.
Voilà, le truc qui est intéressant par contre avec lui, c'est que il avait des projectiles qui apparaissaient, il pouvait faire apparaître des projectiles dans les airs qui te tombaient dessus depuis les airs. Et ça, c'était assez nouveau aussi, parce que il avait en fait son Hadoken, c'était pas un Hadoken, c'était un beam, tu vois, comme Cyclope. Et pareil, il pouvait le faire en anti-air, au sol ou à l'horizontale. Par contre, contrairement à Cyclope qui lui n'a que ses beams ou son truc, eh ben il a la possibilité de faire tomber littéralement quelque chose du ciel sur ta tronche. Et ça, c'était quand même aussi assez nouveau, parce que t'avais pas besoin de sauter pour envoyer un projectile qui allait vers le bas, quoi.
Non, mais peut-être assez surprenant, quoi, du coup, de ne pas savoir d'où ça vient.
Ça surprend beaucoup. L'effet de surprise est fondamental, parce qu'on ne sait jamais avec lui d'où va venir l'attaque.
Mais finalement,
si tu n'as pas l'habitude, c'est violent.
Finalement, c'est là qu'on voit que c'est vraiment un personnage qui est vraiment un personnage de zoning. C'est que contrairement à un Cyclope, du coup, qui va devoir user de son dragon pour qu'on lui saute pas dessus, lui peut très bien ne pas du tout bouger, effectivement, envoyer cet élément en l'air, ce qui fait qu'on ne lui saute pas dessus quand même.
Je me souviens plus quelle était sa X-Ability. J'ai une très mauvaise mémoire là-dessus.
C'est le fait de pouvoir en fait utiliser la glace pour changer sa morphologie, grosso modo. En fait, il fait apparaître une énorme boule à la place de sa main, par exemple.
Voilà, en fait, il met un morceau de glace sur ses poings et il fait plus de dégâts quand il frappe avec. Ce qui est un peu inutile étant donné qu'il est jamais au corps à corps, en fait.
Bah oui, c'est ce que j'ai compris.
Allez, on va finir avec le dernier des héros qui est probablement le X-Men le plus charismatique, si ce n'est le plus charismatique, celui le plus apprécié des fans.
Même et chez Capcom. Parce que même c'est le personnage de base du coup qui est proposé quand on démarre le jeu.
Et qui est étonnamment un Canadien.
Et on parle bien sûr de Hugh Jackman.
Oui, il y a de nombreux films qui ont essayé de le tuer, la licence, mais qui n'ont pas réussi. Donc on parle de Wolverine, Serval à l'époque. Mm-hmm. C'est tellement classe d'appeler Serval, je ne sais pas pourquoi ils ont changé. Probablement des problèmes de droit de traduction. Wolverine. Alors Serval, c'est quoi comme personnage? C'est un personnage qui se bat au corps à corps. Bah forcément, il a des griffes, c'est fait pour. Donc tout son gameplay est matché là-dessus. Il est très rapide, il fonce vers l'adversaire. Il a beaucoup d'enchaînements au corps à corps de base, avec ses coups normaux. Il a un dragon aussi.
Qui sont cancellables par d'autres, en fait.
Voilà. Donc, il a un dragon.
Il a un dragon qui fait décoller, qui est une espèce de vrille. En fait, il a que des vrilles dans ce jeu-là, grosso modo. Il n'arrête pas de tourner dans tous les sens.
En fait, il a un vrai dragon, comme Ryu, tu sais, où il décolle en mode le poing vers le haut. Et il a l'équivalent...
Il tourne sur lui-même, comme un hélicoptère.
Ouais, voilà, un petit peu. En fait, il tourne, tu vois, comme ça, sur lui-même. Et il a une autre attaque qui s'appelle le Drill Claw. Et là, c'est plus intéressant. C'est comme la torche de Dictateur dans Street Fighter 2. C'est-à-dire que là, son corps à lui est le projectile qui avance, tu vois.
D'accord. Sauf que...
en tournant encore une fois sur lui-même.
Sauf qu'il choisit complètement l'angle dans lequel il peut le faire.
Encore une fois, 8 directions.
C'est lui-même le projectile. En fait.
C'est ça, c'est comme le Psycho Crusher dans Street Fighter, tu vois, où t'avances en même temps, enfin tu attaques, tu es ton propre projectile, ton corps est le projectile.
Du coup, ça fait beaucoup plus mal, j'imagine, qu'un projectile.
C'est à peu près pareil, c'est surtout que ça te donne un avantage puisque tu rebondis sur ton adversaire s'il garde et.
C'est pas toujours un avantage parce qu'il vaut mieux pas trop le faire en garde parce que c'est très facilement punissable.
D'accord.
Et son dernier coup spécial, c'était une taunt qui permettait de construire de la barre.
Ouais, c'est pas inutile de construire de la barre dans ce jeu.
Tous les personnages peuvent taunter. Hein.
Oui. Mais voilà, donc un personnage très fort au corps à corps. Bon, les Japonais ont peut-être confondu Serval avec le chat quand ils ont pensé le personnage. Mais bon, ça c'est autre chose. Donc voilà, son super pouvoir, il récupère de la vie.
Bah oui, en référence
à son pouvoir de mutant, où il peut se régénérer. Et son HyperX, je crois que c'est un espèce d'enchaînement au corps à corps où bourre les coups.
C'est le breaker, voilà.
C'est le truc le plus classique, le coup que tout le monde connaît de Wolverine quand ils ont vu un match de Wolverine, quoi.
En fait, il a une deuxième X-Ability dont on n'a pas parlé, c'est le Berserker Charge. Oui. Et c'est en fait un mode dans lequel il devient beaucoup plus rapide et où il peut, parce qu'il est déjà, il va déjà vite, mais en fait, genre pas assez. Et en gros, comme on disait, ça change l'état du personnage. Tu vois, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, comme Psylocke qui se dédouble ou Colossus qui encaisse les coups. Bah là, en fait, il va super vite. Il y a un des doubles de lui qui le suivent. Et je crois que ça lui offre de nouvelles possibilités de combo.
Il peut canceller n'importe quel coup par n'importe quel
autre. Voilà, donc en gros, à partir de ce moment-là, il fait n'importe quoi et ça donne des combos complètement cons. Enfin, c'est Wolverine.
C'est assez rapide, donc il faut tout de suite l'utiliser. C'est-à-dire qu'on redevient vite normal, mais bien enchaîné. Et si on cancelle les bons coups spéciaux au bon moment, vous pouvez prendre un match avec cette technique-là.
C'est un des personnages les plus forts du jeu, clairement. C'est un personnage qui a encore son adamantium parce que c'est à la fin de Fatal Attraction qu'il le perd. Et ils ont oublié de faire ça dans Marvel, qu'on verra plus tard. On s'en branle pas, mince. Pense à nos auditeurs qui ont besoin de se cultiver.
On enchaîne avec
on a fini avec les héros. En fait, il reste les personnages vilains. Et les personnages vilains, là, c'est quand même ouvert débat parce que le choix des personnages est quand même mauvais. Autant les héros, on peut tous les justifier, autant les choix des vilains en dehors des deux boss de fin sont discutables.
On peut pas justifier Iceman, c'est pas possible.
si, on peut justifier Iceman. C'est un des personnages fondateurs des X-Men, donc on peut le justifier, même lui.
Donc, d'accord, l'histoire, oui, effectivement.
Iceman, c'est un petit peu le comment il s'appelle, le mec dans la mer dans DC, là. Poisson Aquaman. Boy. C'est un peu l'Aquaman de X-Men, quand même.
Ouais, un petit peu, on peut dire ça. Donc, les vilains. Donc, allez, on va commencer par le ultra classique, le plus connu, Sentinel. Sentinel, c'est quoi? C'est un robot androïde tueur de mutants. Voilà, c'est un robot. Alors là, il faut savoir que Capcom a pris quand même beaucoup de liberté pour en faire un méca complètement délirant à la japonaise. Et là, je sens que le chef a envie d'en parler.
Ah mais c'est débile parce qu'en fait quand tu regardes les sentinelles dans le dessin animé ou même les comics, c'est monstrueusement grand. Mais c'est genre ça fait un immeuble. Et là en fait bon, ils ont été obligés de le réduire au niveau de la taille. Ouais. Mais surtout le perso c'est n'importe quoi. Il peut voler, il a des rocket punch comme...
C'est une super comme... sentinelle en fait.
De quoi? Comme Goldorak.
Ceci dit c'est quand même, il est, le personnage est quand même énorme.
Ah mais il est gros. Hein.
Non, mais il est gros. Ça n'a rien à voir avec l'œuvre originale, et... mais quand même par rapport à n'importe quel autre personnage du jeu,
il est grand.
C'est hallucinant.
C'est comme Hugo dans 3.3. Pour ouais,
d'accord. Mais il justifie ça ou pas du coup
Qu'il soit plus grand
Non, le fait qu'il ait plein d'habilités qu'il a pas de base.
Non, c'est la C'est la magie du jeu vidéo, tu vois. C'est,
d'accord.
Voilà. Ouais, des magies japonais. Ouais. Non, mais tu vois, il a un rocket punch dans toutes les directions, sol comme ça. Il a.
D'ailleurs, il le crie.
Rocket punch. Ouais, il écrit rocket punch. Il a des coups de pied en l'air, il donne un coup de pelle à tarte aussi dans les airs, il me semble. Normal. Il a le fameux coup de pied bas qui ramasse pas mal. Après, je sais pas exactement ce qu'il donnait dans cette version.
Il a aussi beaucoup de coups de base qui sont des projectiles, un peu comme Cyclope, ce qui permet d'occuper l'espace. Il peut balancer des sentinelles qui ont des effets en fonction d'où elles viennent. Donc c'est un personnage qui a beaucoup de capacités d'enchaînement. Il est fort au corps à corps parce qu'il fait très mal. Il est fort à distance parce qu'il a beaucoup de projectiles. Et ensuite,
en fait, c'est pas un personnage qui est rapide. Donc
il est très lent, c'est vrai.
Si jamais vous occupez l'espace correctement et que vous tapez au bon moment, c'est un personnage avec lequel on peut arracher la victoire assez vite parce qu'il fait extrêmement mal.
D'accord.
Après, je sais plus s'il a des pouvoirs. C'est quoi ses pouvoirs?
Sa X-habilité, c'est comme Storm, c'est de pouvoir voler. En fait, il peut, tu sais, il lance un petit réacteur dans son qui se trouve au niveau de ses fesses, et puis il ramasse ses jambes, et puis hop là, il s'envole. Et à partir de ce moment-là, c'est débile parce que comme il peut enchaîner plein de coups, en fait, les uns après les autres, une fois qu'il est en l'air et qu'il t'a, en fait, qu'il t'a attrapé en l'air, bah là, il fait 2-3 coups comme ça, il termine, il te remet au sol, il te rattrape. Enfin,
c'est la fête du slide.
Et son super, si je dis pas de bêtises, c'est un gros rayon laser aussi, ouais, qui occupe tout l'écran.
C'est une espèce de grosse boule qui apparaît dans ses mains et c'est comme un... C'est pas vrai.
Ça te fait des dégâts au corps à corps et après ça envoie des projectiles.
C'est ça, c'est un truc dans le genre.
Ouais. Ok, donc ensuite on peut passer à Omega Red qui a été un némésis de Serval pendant 5 épisodes d'X-Men et c'est à peu près tout ce que lui permettra sa grosse carrière. Donc on se demande pourquoi il est dans le jeu.
Bah il est dans le jeu parce qu'il est craqué.
Bon, pour faire le... En fait c'est un Wolverine russe, pour faire simple. Qui a un death factor au lieu d'un heal factor qui lui permet de pomper la vie de ses adversaires pour se soigner lui-même. Et il a des tentacules qui sortent des mains au lieu d'avoir des griffes qui sortent.
Et puis il est russe, surtout le bâtard.
Je l'ai déjà dit.
Et rouge, c'est pour ça qu'il est rouge, sale rouge, là, les communistes. Là.
Bon, et le arc scénaristique où il apparaît se passe en Allemagne de l'Ouest, Donc c'était vraiment en pleine guerre froide. C'était la fin de la guerre froide, c'était déjà fini, mais il y avait encore cette ambiance guerre froide qui existait. C'était très drôle. Donc c'est un personnage qui occupe beaucoup l'espace aussi. Avec ses tentacules notamment qui permet d'attaquer à distance.
Bien géré, c'est un personnage qui est juste ultra chiant parce que on peut pas l'approcher en fait.
Voilà, donc en fait il a des capacités, il peut absorber la vie de son adversaire pour se la régénérer. Il peut faire pareil avec la jauge d'hyper. Donc c'est un personnage qui est assez pénible parce qu'en fait il occupe l'espace, il absorbe l'énergie, il est pas trop mauvais au corps à corps je crois.
Bah, en fait, le problème qu'il a, surtout le perso, c'est qu'avec ses tentacules, il va super loin et c'est hyper gênant parce que dans un jeu qui n'est pas forcément fait pour, tu sais, le jeu de distance avec des coups normaux, tout d'un coup, il y a un enfoiré avec des tentacules qui te tape de super loin et que dès qu'il te touche, en fait, il t'en renvoie un qui te reprend de la vie et il peut te choper. Enfin, en gros, il t'attrape, il te vole de la vie ou alors il t'envoie Valcel à l'autre bout de l'écran pour te faire des dégâts. En fait. Donc, à partir du moment où il te touche, il va te renvoyer l'autre bout de l'écran et il est chiant quoi.
Et même sa super lui permet de garder de la distance parce que sa super occupe quasiment tout l'écran aussi à la star de Storm puisqu'il balance ses
tentacules dans tous les sens. C'était son habilité le fait d'absorber la vie.
En fait, il peut absorber de la vie ou absorber de la boire de X Power en fait de l'adversaire. Et non ouais comme il disait son hyper X c'est abusé en gros tu vois. Imagine les mecs ils se sont dit oh il va envoyer des coups de tentacules dans tous les sens. Sauf que bon les gens vont jamais trouver un moyen pour que tous les tentacules touchent en même temps. Donc ils ont mis plein de dégâts sur chacun des tentacules, sauf qu'il y a bien un ou deux couillons qui ont réussi à trouver comment le placer, et résultat, ça peut faire quasiment une demi-barre de vie facile.
Oui,
tu vois, si tu le fais dans la bonne manière, avec le bon combo et le bon truc. Donc le perso
si
est très fort.
Si jamais le personnage est coincé dans un coin...
Il peut dasher dans les airs. C'est un des rares personnages qui, tu sais, il peut pas se déplacer partout dans les airs, mais il a un truc où il s'accroche à moitié au bord de l'écran, et il prend de l'élan et il saute dans les airs. Il a aussi... l'équivalent d'un dragon vers l'avant, la diagonale, le truc, mais c'est pas très invincible. Quoi. Donc, voilà.
D'accord.
Voilà. Après, on a un personnage inutile de l'univers X-Men, encore comme tous les méchants ici, enfin sauf Sentinelle, Silver Samurai. Le samouraï d'argent en français. C'est quoi ? C'est un personnage qui est assez gros, assez lent, qui se bat avec des katanas, qui a des enchaînements assez automatiques au corps à corps.
Depuis le film, il est revenu. Hein.
Et il est revenu depuis le film, mon Dieu. Je l'ai vu en plus, le film. Mais j'ai envie de l'oublier. Au secours. Donc voilà. Donc, bon, très très fort au corps à corps, qui fait des coups qui font très mal et qui enchaîne beaucoup. Il est capable de balancer un projectile.
Ouais, c'est un personnage qui demande quand même à être maîtrisé parce que certains coups sont assez longs à sortir. Et
très dur à jouer dans le jeu.
Voilà. C'est pas un personnage qui est gratuit. Hein.
Et voilà. Et donc, il peut aussi se téléporter.
En fait, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué parce que c'est une habilité, c'est une de ses X abilities en fait, de se téléporter. Donc, il peut se téléporter. Il peut donner un élément à son sabre en X ability aussi. Donc, soit la glace, soit le feu, soit la foudre, qui fait qu'il y a des effets différents sur le sabre. Et le dernier truc, en fait, c'est qu'il peut faire apparaître des images de lui qui le suivent et qui font en décaler ce qu'il fait. Donc c'était le premier Genei, entre guillemets, dans la série Marvel, où en gros, tu tapais, y avait trois bonhommes qui faisaient exactement de toi, la même chose que toi, en décalé en fait.
D'accord.
Alors contrairement à la Psylocke tout à l'heure, où c'était une illusion, là c'est vraiment trois fois le personnage qui tape.
Voilà. Et son Hyper X, c'était quoi déjà?
Alors son Hyper X, c'était un petit peu comme le truc de Storm, tu sais, de l'électricité un petit peu dans tous les sens, même si c'était moins fort. Et il en avait une deuxième où il balançait trois shurikens. Super, un samouraï qui lance des shurikens.
Oui, mais des gros.
Et c'est des shurikens énergiques, c'est pour ça. Énergétiques, pardon. Mm-hmm. Donc voilà, donc Silver Samurai.
Il est assez complet mineur. Alors quand même comme personnage.
Non, mais comme les ITMDJC, son gros problème, c'est que les coups sortent très lentement.
Vraiment.
Donc c'est assez dur de toucher adversaire sans avoir vraiment une bonne maîtrise du jeu. Okay. Et même avec une bonne maîtrise, c'est très compliqué. Et donc dernier personnage jouable, dernier personnage féminin du jeu aussi, si on veut entre guillemets. Donc Spiral peut-être en anglais. C'est quoi ? C'est une femme de main de Mojo qui est en fait le seigneur d'un univers parallèle où ils ont développé la télé-réalité si tu veux. Déjà, ils s'occupent de filmer les autres dimensions et ce qui s'y passe pour faire de la télé chez eux. Et les X-Men se sont retrouvés plusieurs fois perdus au milieu de tout ça et ça donne naissance à des choses très drôles comme les X-Babies. Donc c'est un personnage ultra mineur, Spiral, qui a 6 bras et qui a des pouvoirs dans le jeu qui riment à rien. Je vais laisser TMDJC en parler.
Oui, c'est-à-dire
Non, je vais laisser Nathan en parler de ses pouvoirs.
Merci les gars. Bon, alors, en gros, la principale chose qui la caractérise, c'est qu'elle peut faire apparaître 6 épées qui vont tourner en fait, autour d'elle, en flottant dans les airs, comme ça. Et il suffit, en fait, après, tu peux en fait lancer les dites épées que tu as fait apparaître.
Alors, tu peux les lancer au fur et à mesure, tu peux les lancer d'un coup.
Voilà, et en fait, tu peux lancer vers le haut, vers le bas, l'horizontale encore. Donc, c'est assez bizarre parce que même les coups normaux du personnage sont assez chelous parce que comme elle a 6 bras, elle va taper parfois genre les 6 bras les uns après les autres en se déformant. Ça donne un peu un effet à la Dalsim, mais en crade, un peu en cracra, enfin un peu en...
Weird.
Voilà, donc c'est un peu...
Pour les fans de Shumagorath, en fait, c'est un peu Shumagorath avant
ça.
L'heure.
C'est voilà, ça, voilà. Elle a aussi une shop spéciale, gratuite pour le coup, ce qui n'est pas le cas de la plupart des persos. Et en X-Abilities, là, c'est la folie, elle en a une quantité pas possible, elle en a 1, 2, 3, elle en a 6.
6
Elle a 6 X-Abilities.
Si j'ai bien suivi, les autres, ils en ont combien? Parce qu'à part Wolverine, qu'en a 2...
Une ou deux, généralement.
La grande majorité, c'est une seule ability.
D'accord.
Que ponctuellement, il peut y en avoir plus. Et des fois, des variations en fait, en fonction de ce qu'on utilise comme bouton.
C'est ça. Alors, en gros, elle a des trucs genre. Elle peut envoyer les épées, puis les épées explosent. Tu peux inverser ta place avec celle de ton adversaire. Autrement dit, je sais pas, par exemple, ton adversaire se planque dans le coin, toi, t'es au milieu, vous échangez. Mmh. Voilà.
Alors, c'est juste une petite parenthèse là-dessus. Ça peut paraître tout bête quand on le dit. Quand on est vraiment dans le jeu et que c'est fait avec surprise, c'est-à-dire que quand vous en abusez pas, vous savez exactement ce qui va se passer, alors que la personne en face ne sait pas. Et il y a un moment, surtout quand vous êtes en train de faire un coup particulier, genre vous lancez un coup, vous faites la téléporte, qu'est-ce qui se passe quoi ? Pourquoi je me retrouve là parce que,
c'est déstabilisant. Quoi.
Oui, et on casse le gameplay. Et ça permet vraiment de prendre l'avantage. C'est un personnage qui est assez intéressant à jouer en termes de gameplay. Hein.
Et en fait, elle a aussi d'autres choses. Elle a une téléportation, mais elle n'en a pas qu'une. Elle a une téléportation dans 6 directions différentes. Et ça, c'est super intéressant puisque elle peut se téléporter en haut devant, en haut derrière, ou au sol devant, au sol derrière, ou au sol au milieu, ou en l'air. Enfin, tu vois, en gros, dans les huit directions, mmh. elle peut se téléporter. Et c'est assez sympa puisque ça permet, par exemple, d'envoyer les épées. Tu vois, t'envoies voler les épées, tu te téléportes par exemple dans le dos du mec. Ça, c'est un peu les vraies prémices en fait de l'école Marvel qui, avec le temps, va se développer sur des feintes en fait sur le devant et le derrière, avec les épisodes qui arriveront plus tard dans lesquels on utilise deux personnages au lieu d'un, l'un pour bloquer l'adversaire et l'autre où on passe dans son dos par exemple pour le frapper.
Qui ont vraiment été amorcés avec Dalsim lors de l'hyper fighting de Street Fighter 2, où pour la première fois on permettait de lancer un projectile en fait sur un adversaire et de se téléporter dans son dos. Voilà. Mais là, c'était vraiment poussé à l'extrême.
Voilà. Et donc, d'accord. dans les autres qu'elle a, elle a une Power Dance qui elle se met à briller en rouge et elle fait plus de dégâts. Voilà. Elle
vraiment,
a une,
vraiment plus.
Voilà. Elle a une Speed Dance dans laquelle elle brille en blanc. comme ça. Et bah là, en fait, elle peut bouger super méga vite. Alors d'accord. si pour peu que t'arrives à bien jouer, ça devient n'importe quoi. Bah,
surtout que on en parlait tout à l'heure, son point fort permet vraiment de faire plusieurs hits. Comme ça s'enchaîne assez vite, il vaut mieux pas louper les temps morts.
Voilà. Et le dernier, en fait, X-Ability, ce qu'elle a, c'est qu'elle peut se rendre invisible. Cache, tu vois. Donc en gros, peut-être que les épées sont encore visibles, tu me diras, quoique ce serait un peu imbécile si c'était le cas. Je sais plus.
Moi non plus, sûrement. À tester, mais
voilà. Mais dans tous les cas, donc voilà, tu vois, elle a des. En fait, c'est un perso qui est hyper mineur, comme disait Wellcook. Mais en fait, elle a des pouvoirs d'enfoiré, quoi.
C'est ça. Et tu peux vraiment surprendre.
Ce qu'on voit bien dans le truc, c'est que plus le perso est mineur ou plus les génériques comme la Sentinelle, plus les développeurs se sont fait plaisir en mettant des pouvoirs qui n'avaient rien à foutre là et qui ne correspondent pas du tout au personnage, mais qui, en termes de jeu, ont abouti à des choses assez passionnantes. Et c'est le cas de Spiral notamment.
Souvent, en plus, comme c'était des persos qui étaient au départ peu choisi parce que pas héros. Du coup, c'est vrai que c'était les personnages qui offraient la difficulté aux joueurs qui jouaient contre la machine, tout simplement. Et là, on se retrouve du coup avec des personnages qu'on a envie d'essayer parce que le gameplay est vraiment intéressant.
Voilà. Bon, donc en termes de personnages vilains, le casting quand même est pas glorieux. Non. Honnêtement, ils auraient pu choisir d'autres personnages beaucoup plus emblématiques ou charismatiques. Par exemple, on comprend pas pourquoi Dante Sabre est pas là. Il aurait beaucoup plus sa place qu'Omega Red, par exemple. Mais bon, mais malgré tout, ils se sont bien rattrapés sur les boss.
Alors vas-y.
Alors là, les boss.
Parle-nous des boss.
Bah, en fait, il y a deux boss dans le jeu. Bon, bah, c'est la tragédie des jeux de combat qui ont de moins en moins de boss. Le premier, qui était quand même super impressionnant à l'époque, c'est Juggernaut, le fléau en français. Donc, qui est un énorme mastodonte dans une armure marron avec un pouvoir fourni par le joyau de Sidorak, un truc comme ça, je sais plus.
Non mais le sprite quoi.
Mais voilà, le sprite est monstrueux, il est aussi gros que Sentinelle si ce n'est plus, je crois.
Il est plus gros que Sentinelle.
Ouais. Il est moins haut, mais bon.
Il est ultra massif, il a un rendu exceptionnel.
C'est-à-dire que le point fait la taille de Wolverine presque, hein, j'exagère.
Non mais
à peine.
Du coup, il fait le tiers de l'écran, le perso. Enfin,
il fait plus du tiers de l'écran.
Non, il fait pas le tiers de l'écran.
Bon.
Il fait bien un bon. Il fait bien un bon tiers en largeur en fait, largeur.
D'accord.
Mais ouais, bon, si tu veux. Voilà, donc bon, ça n'a pas beaucoup de sens de parler du gameplay des persos, des boss.
Non, ouais.
Ce qu'il a de spécifique, c'est qu'il absorbe beaucoup de coups, en fait.
C'est-à-dire que quand vous lui tapez dessus, il continue à avancer.
Voilà,
quoi.
Il a l'invulnérabilité de Colossus, mais permanente. Donc, vous pouvez le taper, il continuera à vous taper. Donc, pour le battre, c'est vachement compliqué, en fait.
D'ailleurs, il est beaucoup plus difficile à battre. On en parlera après que le boss final. Ce personnage-là, oui, il faut y aller.
Il faut y aller. Alors, parfois, on ne sait pas pourquoi il garde alors qu'il n'a pas besoin, hein, honnêtement. Donc, avec un peu de chance, vous pouvez le battre. Mais voilà, c'est un personnage. Bah, de toute façon, le pouvoir du personnage, c'est l'invulnérabilité. Donc, ils l'ont très bien rendu. Il est super balèze et super impressionnant.
C'était pas très difficile à rendre, l'invulnérabilité dans un jeu vidéo.
Merci Nathan.
Je crois qu'il en a marre. C'est vrai que le podcast est long, on s'excuse, mais il a bien besoin de ça pour être raconté. Et le boss de fin, c'est le méchant emblématique d'X-Men, le rival du professeur Xavier, son ami d'enfance, entre guillemets, Magneto. Donc Magneto qui a un stage magnifique qui se passe sur Avalon, le météorite duquel il veut détruire la Terre. Ce personnage, il est monstrueux. Il a tout ce qu'il faut de tous les personnages du jeu. C'est-à-dire qu'il peut voler, il peut rester au terre, il a des milliards de projectiles. Il peut prendre des morceaux du décor. D'ailleurs, Juggernaut aussi peut le faire et vous les balancer dans la gueule.
Sympa.
Il est. Y a rien à dire, c'est The Boss. Hein, c'est l'incarnation du boss de fin.
Le mec, il a un projectile. Nyx Ability, c'est un projectile qui apparaît dans plusieurs endroits de l'écran et qui va directement sur ta gueule. Et c'est imbloquable, tu peux pas le garder. Et ça le ramène. Ça te ramène vers lui au corps à corps.
Et là, il t'enchaîne.
Tranquille.
Mais du coup, on peut le battre quand même.
J'ai pas réussi, j'ai essayé hier soir. Voilà.
Alors, oui, oui, c'est okay. Faisable. Ça demande une sérieuse maîtrise. Mais ceci dit, pour arriver déjà là, il faut vous taper des personnages, effectivement, comme Sentinelle, comme Spirale, ou etc. Déjà, c'est pas un jeu, à l'instar de 2X, quand vous rentrez dedans, dès le début, deuxième, troisième personnage, ça vous demande de bien jouer. Hein.
Et puis, les deux boss de fin, c'est quand même deux boss en contradiction de boss pas jouables. Donc, ils sont prévus pour être complètement foutre plein la gueule. Ouais. Complètement, en dépit de tout bon sens de gameplay, juste en foutre plein la gueule, impressionner le joueur et le dégoûter aussi, à certains moments. Donc voilà, ils sont magnifiques. Et enfin, il nous reste après le personnage caché du jeu, jouable. Je vais laisser TMDJC faire son...
Vas-y.
Alors, ce qui est rigolo, c'est que ce personnage-là, du coup, pour la plupart d'entre vous, en plus, le savent déjà, on a le droit d'avoir Gookie, en fait, en personnage. Ouh. Donc, Gookie de Street Fighter.
Qui est Gookie ?
Akuma, dans la version française. C'est un personnage que tout le monde connaît, parce que, c'est un Shoto, c'est le boss de fin de 2X, c'est un personnage caché, un clin d'œil, donc, du coup, à Street Fighter. C'est rigolo, parce que depuis tout à l'heure, on arrête pas de dire qu'il n'y a aucune référence directe à Street Fighter, ben là, les développeurs se sont fait plaisir, ont fait plaisir aux fans, parce que très vite, en fait, il a fuité le fait qu'il y avait un personnage caché. Beaucoup avaient déjà deviné que ce serait Gookie avant même que les développeurs le disent, donc c'est vraiment du fanservice qui a été fait. Le personnage, en termes de gameplay, est un mixte entre Ken, Ryu et Akuma. Grosso modo,
Shin Gookie.
C'est grosso modo, en fait, il a donc les deux Hadoken aériens par défaut. Il a l'Hadoken à la Ken. Il a le
celui de Ryu aussi.
Celui de Ryu également, donc avec le Shakunetsu. Il a un Hurricane Kick qui est assez chiant à utiliser parce que très souvent il fait du surplace et qu'il faut au départ de l'énergie et dasher pour qu'il avance. Il a un dragon par contre qui est ultra efficace, qui a une flamme comme celui de Ken en point fort mais qui est noir. Donc avec des petits clins d'œil aux deux personnages. Et surtout, il a les deux coups spéciaux de Ken et Ryu, enfin les deux super coups spéciaux. Il a le Shinku Hadoken de Ryu et il a le Shoryu Repa de Ken. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les manips des deux. Elles sont quasiment identiques
C'est limite du Street Fighter 4.
Et donc, c'est difficile au départ. Là, concrètement, en fait, un joueur qui a découvert le jeu avec Street Fighter 4, je lui souhaite beaucoup de courage pour jouer Gookie, parce que c'est pas un personnage qui est très accessible. Il est vraiment moins fort que les autres. Il est moins rapide que les autres. Ça peut paraître bizarre parce qu'on s'attend à ce que ce soit un personnage complètement craqué. Mais c'est vraiment un personnage qui va vous demander un challenge d'apprentissage. Et donc, je disais, faire la différence entre les deux coups, c'est le Shoryu Repa, c'est vraiment deux dragons à la suite. C'est pas deux Hadoken à la suite. Et quand vous savez comment on fait un dragon, ben on sait que c'est pas un coup qui est fait par hasard, donc il faut vraiment apprendre à les faire correctement. Il a également une X-Ability qui est assez particulière parce que c'est sa warp, donc son
téléport.
Donc ça veut dire que son téléport consomme de la barre, donc on fait très attention à ce qu'on fait avec le personnage.
À pas confondre avec son dash qui a aussi la même forme. Hein.
Ouais, mais du coup par contre vous n'avez pas l'invulnérabilité. Merci. Ouais, ouais. Donc bon, voilà.
Bon, voilà. Donc en conclusion alors pour ce jeu, vous diriez quoi ?
Quoi, on conclut comme ça ?
Mais oui, là comme ça à l'arrache parce que vraiment le temps passe et que ben voilà, on n'a plus beaucoup de temps.
Eh bah, c'est un jeu qui a vachement bien vieilli en fait. Visuellement, il a quand même bien vieilli. Il y a juste les boucles de sprites de certains personnages qui sont peut-être plus très cohérentes globalement aujourd'hui. Mais à jouer, il est toujours super agréable. Les différences entre les persos font que tu t'ennuies pas d'un perso à l'autre. Mmh. Et puis je sais pas. Bon, après là, le cast,
c'est toujours un jeu qui est joué aujourd'hui.
Et le cast est pas forcément comme on disait super, mais comme tu disais, les capacités des personnages pas connus. Tu vois, contrebalance le fait qu'ils sont pas charismatiques ou que c'est pas eux qu'on aurait voulu, quoi. Et après, bah voilà, ça va donner d'autres jeux ensuite. Il y a plein de bonnes idées. Toutes les bases, on avait parlé, on a oublié de le dire, mais les furies dans ce jeu, elles se font avec seulement un quart de cercle plus deux boutons.
Trois boutons.
Contrairement, tu vois, c'est bizarre, mais c'est comme si tout d'un coup on disait, bah c'est celui qui réfléchira et qui fera les manips le plus vite, des manips simples le plus vite, qui jouera le mieux. En fait, plutôt que celui qui les fera les manières la plus juste ou en économisant ses coups. Et je sais pas, c'est comme si tout d'un coup on était complètement décomplexé et que voilà, il avait fallu que on passe par la mutation pour arriver à ça, quoi.
Alors juste pour enchaîner là-dessus, n'oubliez pas qu'on est en 94 et comme je le disais juste avant, c'est vrai que même si les manips sont beaucoup plus simples que dans ce qu'on a vu dans 2X ou etc. Voilà, ça demande, par contre, elle demande à être réalisée correctement.
Mais enfin, le timing est quand même plus souple que ce qu'on a pu voir dans d'autres jeux, surtout quand on compare un KOF 94 de SNK, c'est quand même beaucoup plus simple à prendre en main.
Le jour et la nuit.
Après, juste une chose, c'est que voilà, c'est un jeu qui se passe sur une tendance très forte X-Men, mais malgré tout, c'est vraiment un jeu de combat qui demande de l'investissement. Et les fans de comic book, au final, se sont peut-être pas beaucoup attachés à ce jeu-là, parce qu'il est, il est dur d'accès. Les fans de jeux de baston qui étaient restés sur Street Fighter 2, et il y en avait beaucoup à l'époque, aussi sont complètement dépaysés et sont pas forcément restés sur ce jeu-là. Et en fait, c'est un jeu qui ouvre une voie à lui-même, qui va suivre son chemin, à laquelle beaucoup de joueurs, essentiellement américains, vont adhérer. Beaucoup, au-delà de la licence, le gameplay en lui-même, c'est ça vraiment qui va être retenu dans ce jeu-là, plus que tout ce qu'il peut avoir reçu. Et pourtant, la réalisation et l'utilisation de la licence, c'est une putain de baffe pour tous les fans. Obligatoirement.
Et pour enchaîner sur ce que tu dis, je te remercie d'avoir ouvert cette porte-là. Le jeu n'a pas du tout plu aux personnes à qui il était censé plaire. Et comme tu viens de l'exprimer, c'est vraiment un public neuf qui va découvrir et s'approprier le jeu. En général, plutôt des gens qui viennent de l'univers de Street Fighter, il faut l'avouer, mais qui trouvaient qu'ils étaient trop coincés dans 2X ou etc. Donc c'est vraiment, en fait, ils se sont appropriés le jeu. Le public, tu disais, est essentiellement américain. Il y a quand même toute une communauté japonaise qui jouait à ce jeu. Mais le jeu, effectivement, a vraiment moins marché en termes de chiffres que ce qu'on a pu voir dans Vampire. Et à l'extrême inverse, le jeu qui a très mal marché aux États-Unis, donc Darkstalker, lui, enfin X-Men a beaucoup beaucoup mieux marché.
En fait, ce qui est marrant, c'est que on en parlait un moment dans un autre podcast hors série qu'on avait fait il y a des années de ça, c'est que avec X-Men quelque part, c'est le début de, enfin tu vois, quand ils ont fait Vampire, Capcom, c'était un jeu de niche juste pour dire regardez, on est encore là et non, Capcom ne fait pas que du Street Fighter, tu vois. Mais dans les faits, les joueurs de 2X, de Street Fighter 2, jouaient à Vampire et un peu vice-versa, sauf dans les dernières itérations où c'était vraiment très différent. La X-Men, le gameplay est tellement différent, la base est tellement différente, ça fait appel en fait à une manière de profiter du jeu qui est extrêmement différente. Et c'est peut-être la première fois que Capcom en fait va scinder peut-être un petit peu sa communauté en deux, entre ceux qui vont finalement suivre Marvel versus et ceux qui vont rester sur Street. Et c'est peut-être à la fois une réussite et une problématique de la part de Capcom, puisque à force de faire des bons jeux, après en refaisant les nouveaux Darkstalkers, en refaisant les nouveaux Marvel versus Capcom, en faisant tous ces nouveaux jeux, et bah finalement ils vont créer trois branches de joueurs qui vont pas avoir les mêmes attentes et qui finalement, tous séparés, vont pas être suffisamment nombreux pour dans le futur, dans le temps, en fait, pérenniser chacune des séries, hormis Street Fighter, qui est peut-être la plus grosse, quoi.
Au lieu de ramener de nouveaux joueurs vraiment autour de nouvelles licences, en fait, ils ont explosé les joueurs, en fait, qui étaient entre eux.
D'accord.
Juste une dernière chose, c'est un jeu qui est quand même très arcade. Il a mis beaucoup de temps à arriver sur console. Il était sorti en arcade en fin 94. Sur Saturn, il est arrivé en 95 et en 96, en fonction des régions. Sur PC en 97 et sur PlayStation, la console la plus populaire de l'époque, il est arrivé qu'en 98.
Alors, 98, chez nous, en fait, il était disponible avant. Et il était extrêmement difficile à trouver. Et malheureusement...
Et il était pourri.
Le jeu était pourri.
mais c'est quoi l'adaptation
c'est
pas bonne.
C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu... Alors, je sais pas d'où vient la conversion. Est-ce que c'est... D'abord, la version a été faite sur Saturn ou je sais pas trop quoi. Mais le jeu, le gros problème du jeu, c'est qu'il est saccadé.
Voilà, donc voilà, bon, c'est un problème fondamental qu'on a toujours vu sur le jeu PlayStation, mais voilà, c'est un jeu.
Non, mais là, c'était marqué.
Enfin, pour en profiter.
Quand tu sais que le jeu d'après, donc Marvel, est sorti avant chez nous.
Mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'on a eu Street Fighter 2, un élément qui a énormément contribué à sa popularité, ça a été sa présence sur Super Nintendo, fondamentalement.
D'accord.
Ça a énormément joué. Et ce jeu-là n'a pas eu ce support-là, alors qu'il s'est prêté énormément de par sa licence, en exploitation domestique. Il a pas eu ce support-là qui a permis de développer son public aussi à la base.
En fait, de ce que j'ai compris, sur la Saturn, il avait l'air d'être très bien adapté, mais apparemment, donc ça n'a pas eu si vraiment
mais bon,
de succès.
La meilleure solution aujourd'hui, ça reste l'émulation pour y jouer, quoi qu'il arrive.
Le problème, c'est que la Saturn, personne l'a en voulait de cette console. Donc voilà. Tout le monde a acheté une PlayStation, mais la PlayStation était faite pour la 3D, pas pour la 2D, comme l'était la Saturn.
Donc, oui,
enfin, on caricature un peu, mais voilà.
Non, pas tant que ça.
Dans les faits, de toute façon, il y a aussi, on parlait du fait que Capcom séparait en fait son public en deux, et en 3 ensuite avec Darkstalkers. Mais il y a aussi un truc qui arrive, c'est que faut pas oublier que le gros succès de Capcom, c'est Street Fighter 2 en arcade, mais aussi sur Super Nintendo, où ils ont vendu plus de 6 millions de cartouches. Je ne sais pas si tu imagines, dans les années 90, 6 millions de cartouches. Ouais, il a fallu, je ne sais pas combien de versions de Street Fighter 4 pour faire 6 millions. Genre des versions iPhone, Android, qui sont comptées dedans pour faire 6 millions. Mmh. Tu vois. Et juste pour la première version de Street Fighter 2, c'était 6 millions. La deuxième, c'était 3 millions, je crois.
Oui, mais il faut compter aussi qu'il y a eu les versions du Kunai, qu'il y a eu les versions Mega
Drive. Non, moi, je te parle juste pour la version Super Nintendo. Là. Ouais, voilà. Donc, en plus, c'est monstrueux. Et le problème, en fait, avec ça, c'est que bah, c'est cool de sortir plein de nouveaux jeux, de séparer des publics et tout, mais finalement, en fait, ils ont pu y jouer qu'en arcade dans des conditions correctes ou alors avec des consoles qu'ils ne voulaient pas acheter parce qu'ils jouaient à autre chose.
Ils alors, particulièrement pas chez nous, la Saturn a très bien marché au Japon.
Voilà, mais après, voilà, X-Men, pour y jouer...
Et la version Saturn est juste exceptionnelle.
Voilà, tu y jouais plutôt, t'avais plus envie d'y jouer sur PlayStation, malheureusement.
Hey. Voilà.
Et à ceux qui se demandent pourquoi on ne trouve pas Gambit dans le jeu, bah en fait, il était sur le jeu Super Nintendo X-Men qu'avait fait Capcom, qui n'avait rien à voir avec le jeu d'arcade.
D'accord, très bien. On va s'arrêter là pour cette partie.
Bah, cette partie pour ce jeu-là, en tout cas.
Pour ce jeu-là, oui.
On a un DLC de prévu ou pas ?
Donc on va maintenant enchaîner avec Marvel Super Heroes, donc toujours avec Nathan, Will Cook, TMDJC. Et Sly qui est toujours avec nous. Merci à vous et à très bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Donc, merci à tous pour toutes ces précisions sur X-Men Children of the Atom. donc, si on va, en fait, pour ceux qui veulent, donc on va passer, en fait, à...
Marvel Super Heroes.
Marvel Super Heroes, je vais y arriver, c'est difficile pour moi. Et
En DLC, tout de suite, après ce podcast.
Merci, Will Cook.
Vas-y, on la refait. Bon, bah, merci beaucoup pour.
Merci beaucoup pour, pour toutes ces informations, ma foi, fort riches et instructives. J'ai appris beaucoup de choses, c'était trop cool. Et pour ceux qui voudraient continuer sur la lancée marvelesque, on va faire tout de suite Marvel Super Heroes dans une annexe à ce podcast que vous trouverez juste en dessous du podcast dans l'article dans lequel vous avez cliqué.
Et que Will Cook va rédiger.
Exactement. Et pour le reste, bah, donc, on va parler de Marvel Super Heroes et de tout ce qui est spécifique à ce jeu. Et on reviendra sur toutes les séries de Versus, le début de la série Versus. Plus tard dans un autre podcast. Merci à tous, salut. Vous n'êtes pas obligé de dire tout ça.
Donc merci beaucoup, merci à tous pour toutes ces informations,
de rien.
Très instructives, donc sur X-Men Children of the Atom. Donc pour ceux qui veulent poursuivre l'aventure en fait suite à ce podcast, on va passer maintenant en fait à Marvel Super Heroes.
C'est pas très compliqué comme nom pourtant.
Non, je sais.